Courbons la tête.
Lord, as we gather here this fine Easter morning, see the little buds pressing.
Seigneur, comme nous nous assemblons ici en ce beau matin de Pâques, nous voyons les petits boutons qui éclosent, les abeilles qui viennent s'y poser pour y récolter leur part, les oiseaux qui chantent comme si leur cœur débordait de joie de ce qu'il y ait un Pâques. Nous croyons que tu as ressuscité Jésus d'entre les morts il y a de nombreuses années aujourd'hui, et nous célébrons ce jour comme fête commémorative. Qu'il y ait un Pâques parmi nous tous aujourd'hui. Puissions-nous, en tant que ses serviteurs, comprendre sa parole, que nous étions alors en communion avec lui, et que maintenant nous sommes ressuscités avec lui et assis ensemble dans les lieux célestes. Bénis le service, ici dans le tabernacle, et dans toutes les contrées où il est diffusé par le moyen du téléphone. Guéris tous les malades et les affligés. Que ce soit un Pâques pour eux aussi et un exode qui les fera passer de la maladie à la force. Et ceux qui sont morts par leurs péchés et par leurs offenses, puissent-ils vivre aujourd'hui grâce à Christ. Et nous t'en louerons, car nous le demandons en son nom. Amen. Je considère vraiment que c'est un merveilleux privilège, ce matin, d'être de retour ici à Jeffersonville, dans l'Indiana, avec cette grande assemblée, l'église qui est pleine à craquer. Il y a des gens debout, il y en a tout autour et dehors, et dans les parcs de stationnement et partout. Pour ceux d'entre vous qui sont à l'écoute par le téléphone, d'un bout à l'autre du pays, c'est une matinée superbe ici. À 5 heures ce matin, mon petit ami à la poitrine rouge s'est arrêté à ma fenêtre et il m'a réveillé. On aurait dit que son petit cœur était débordant, qu'il disait « Il est ressuscité ». J'ai toujours considéré ce petit oiseau comme mon ami parce que je l'aime bien. Comme le raconte la légende à son sujet, un petit oiseau brun l'a vu, qui souffrait sur la croix, où il avait été placé à cause du péché. Évidemment, ce petit oiseau n'avait aucun péché, il n'avait pas à mourir pour ce petit oiseau. Mais il a volé vers la croix, et il a essayé d'arracher les clous avec son petit bec, et sa poitrine est devenue toute rouge. Et je veux que la mienne soit comme ça, elle aussi, comme un bouclier, pour avoir essayé de protéger cette chose glorieuse pour laquelle il est mort. Comme je sais que notre temps est limité ici, surtout pour ceux de nos amis qui sont à l'écoute par le moyen du téléphone, j'aimerais attirer votre attention ce matin sur une photo qui a été prise il y a quelque temps par un appareil photo d'une vision que j'ai eue ici au tabernacle où il était question de quitter l'Indiana pour aller en Arizona où j'allais rencontrer sous la forme d'une pyramide sept anges. Sans savoir ce qui allait arriver par la suite, quand je suis arrivé là-bas, je pensais que c'était la fin de ma vie, que personne ne pourrait survivre à une telle explosion. Je suis sûr que vous êtes tous au courant de l'histoire. Et alors, dans le canyon Sabino, par une matinée comme celle-ci, pendant que j'étais en prière, une épée avait été placée dans ma main, et il avait été dit, « Ceci, c'est la parole, et l'épée de la parole ». Par la suite, les anges sont apparus, comme cela avait été prophétisé. Au même moment, un grand amas de lumière est parti de l'endroit où j'étais, et s'est élevé dans les airs à une altitude de 30 milles. Et autour du cercle, il y avait comme les ailes des anges. Elle a été tracée dans les cieux la forme d'une pyramide, selon la même constellation d'anges qui était apparue. La science en a pris la photo depuis tout là-bas au Mexique, alors que cela s'est déplacé du nord de l'Arizona, là où le Saint-Esprit avait dit que je serais, à 40 milles au nord-est de Tucson. Cela s'est élevé en l'air et le magazine Life a publié les photos. quelque chose de mystique très haut dans les sphères où il ne peut y avoir aucune humidité, où il ne peut se faire aucune évaporation de quoi que ce soit. Cela était à une altitude de 30 000 et mesurait 27 000 de large. Et cela s'est élevé directement de l'endroit où se trouvaient ces anges. Or, ils ont demandé à savoir, ceux de la science, quelqu'un de Tucson, ils voulaient savoir s'il y avait un sens à cela, mais je ne leur ai pas dit. Vous tous, vous le saviez, cela avait été annoncé à l'avance, mais ce n'était pas pour eux, c'était pour vous. Et alors, c'est là qu'il m'a parlé et m'a dit, les sept sceaux vont être ouverts. Les sept mystères, le mystère en sept points de la Bible, qui avait été caché depuis la fondation du monde, vont être révélés. Et nous, bien que nous soyons un modeste petit groupe en comparaison du monde entier, nous avons bénéficié de ces bénédictions, d'entendre ces mystères. Le mariage, le divorce, la semence du serpent, toutes ces différentes questions nous ont été entièrement révélées. Non pas par l'homme, mais par Dieu lui-même, qui a dévoilé ces sept mystères. Ce qu'était l'Église, qu'elle était en Christ au commencement, et qu'elle serait révélée au dernier jour. Et alors, comme cela s'est élevé, nous en avons la photo sur la plaque en sortant. Mais j'ai aussi la photo ici même, si vous remarquez, telle que le magazine Life l'a publiée. Mais je me demande si mon auditoire visible ici a déjà vraiment regardé la photo. Voyez-vous, comme elle devrait être. Vous vous souvenez, je prêchais quand cette vision est venue sur le sujet du livre de l'Apocalypse. Les juges d'autrefois, là, nous avions vu Jésus dans Apocalypse 1, quand nous avons commencé à ouvrir les sept sceaux, ou plutôt les âges de l'Église, juste avant l'ouverture des sept sceaux. Christ se tenait là avec les cheveux comme de la laine, blanc. Et je vous avais décrit ça, les juges anglais d'autrefois et les juges d'il y a très longtemps. Quand ils étaient nommés juges, qu'ils étaient assermentés, l'autorité suprême leur était conférée. Ils portaient un genre de perruque blanche dont ils se couvraient la tête pour montrer qu'ils avaient l'autorité suprême. Eh bien, si vous tournez la photo comme ceci et que vous regardez, probablement que vous le verrez depuis l'auditoire. C'est Christ. Vous voyez ses yeux qui regardent ici. Tout ce qu'il y a de plus parfait, il porte la perruque blanche, la divinité suprême et le juge des cieux et de la terre tout entier. Voyez-vous ses yeux, son nez, sa bouche? Vous n'avez qu'à tourner la photo. Il l'avait placée comme ceci. Tournez-la de ce côté-ci, comme elle devrait être. Et vous, le voyez-vous? Il est le juge suprême. Il n'y en a point d'autre que lui. Et voilà une identification parfaite. Encore une fois, une confirmation que ce message est la vérité. Ceci est la vérité, c'est vrai. Et cela fait de lui, non pas une troisième personne, mais la seule personne. Avec ce qui est blanc, voyez, vous voyez ce qui est foncé, son visage, sa barbe et ses yeux. Et remarquez, il regarde. Il y a cette lumière qui émane de lui, qui éclaire la droite dans la direction où il regarde. Et sur la croix, c'est là qu'il a regardé, à droite, où il a pardonné aux pécheurs. À la lumière de sa résurrection, nous avançons toujours en son nom. Je voudrais bien, ce matin, avoir beaucoup de temps à consacrer à ces phénomènes qui ont été, sans l'ombre d'un doute, prouvés au cours des 30 dernières années, ou 35 dernières années, ici même à cette église. Depuis le jour où, à la rivière, cette même lumière est descendue ici, à Jeffersonville, en 1933, et ces mots ont été prononcés. Comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, ton message sera le précurseur de la seconde venue. Nous sommes au temps de la fin et nous le voyons. Parfois, nous nous demandons pourquoi ça ne s'est pas répandu sur toute la terre. Peut-être qu'un jour ou l'autre, nous aurons l'occasion d'expliquer ça, Dieu voulant. Maintenant, je voudrais que vous preniez dans vos Bibles, car nous croyons toujours que la parole doit venir en premier. La lecture de la parole. Je la lis toujours parce qu'elle, mes paroles, c'est la parole d'un homme. Elles vont faillir. Mais la parole de Dieu ne peut jamais faillir. Alors, nous allons lire dans les Saintes Écritures un texte. Nous voudrions que vous preniez d'abord trois passages de la Bible que j'ai choisi de lire. L'un d'eux se trouve dans l'Apocalypse au chapitre 1 et les versets 17 et 18. C'est ici qu'il s'est présenté avec ses cheveux blancs comme de la laine et ses pieds étaient semblables à de l'airain. Et je voudrais aussi que vous preniez dans vos Bibles Romains 8, 11. J'ai choisi ce matin trois passages à lire dans les Saintes Écritures pour mon message d'aujourd'hui, que le Seigneur m'a mis à cœur pour la résurrection. Ensuite, je voudrais que vous preniez aussi Marc 16, 1 et 2. C'est de là que je puiserai mon contexte. Maintenant, dans Apocalypse 1, 18, nous lisons ces paroles, 17 et 18. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, car je suis le premier et le dernier. » Et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et dans Romains, au chapitre 8 et au verset 11, nous lisons ceci. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vivifiera vos corps mortels aussi par son esprit qui habite en vous. Et maintenant dans Marc au chapitre 16, le chapitre de la résurrection, chapitre 16, versets 1 et 2. Lorsque le sabbat fut passé, Marie, mère de Jacques et Salomé, apportèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent à la tombe très tôt au lever du soleil. Maintenant, mon thème de ce matin, je veux prendre comme thème, c'est le lever du soleil. Et le sujet que je veux traiter, c'est la puissance vivifiante. Bon, vous savez, vous avez peut-être écouté la radio et les différents ministres qui ont prêché. Et notre distingué frère Neville, ce matin, il a traité son sujet de Pâques sur la résurrection. Et je me suis dit que j'allais peut-être prendre un chemin un peu différent, pas pour être différent, mais simplement pour ajouter un peu plus, peut-être vous présenter la chose sous un autre angle. Les Écritures, quel que soit l'angle sous lequel vous envisagez les Écritures, elles montrent toujours Jésus-Christ. Il n'y a pas moyen de passer à côté. Elles le montrent toujours. Maintenant, alors que le monde, aujourd'hui, par un service commémoratif, ou du moins aux États-Unis et de ce côté-ci de la Terre, ce matin, dans les églises et partout, on commémore la plus grande victoire que l'homme a jamais eue. Je pense que comme Sauveur, quand il est mort, ou comme nourrisson, quand il est né, il n'aurait pas pu être ici sans venir sur terre. Et quand il est mort, certainement qu'il a fait l'expiation de notre péché. Mais pourtant, il y a eu beaucoup de beaux petits bébés qui sont nés. Il y a eu beaucoup d'hommes qui ont souffert et qui sont morts pour une vraie cause. Mais il n'y en a jamais eu un seul qui a pu se ramener lui-même à la vie, jusqu'à ce jour. Or, c'est la semaine la plus importante de toute l'histoire, la fête la plus importante de tous les temps. C'est par Pâques qu'il a prouvé ce qu'il avait dit. L'homme peut avancer des choses, mais on ne peut pas vraiment y ajouter foi tant qu'il n'a pas été prouvé que c'était la vérité. De même, Dieu qui a dit « Éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon », il ne vous dirait pas de faire quelque chose que lui-même ne ferait pas. Alors, il a éprouvé celui qui est mort pour notre péché. Et maintenant, non seulement est-ce une fête commémorative, avec tout ce tralala des fleurs de Pâques, des chapeaux de Pâques, des lapins roses, et toutes ces choses qu'on a adoptées, et des festivités religieuses, et c'est bien, mais en réalité, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Comme les gens aujourd'hui, ils cherchent à dire qu'on doit laver les pieds une fois par année, le jeudi, et que le vendredi, on doit prendre la communion. Et toutes ces différentes doctrines, ils argumentent à savoir si ce devrait être ce jour-ci ou ce jour-là, ou bien si ce devrait être le jour du sabbat, ou bien le premier jour de la semaine, ou... Toutes ces choses, ce ne sont que de simples traditions. À quoi vous avancerez n'importe laquelle de ces choses, que vous fassiez carême ou que vous ne fassiez pas carême, s'il n'y a pas de vie en vous? Ce n'est qu'une commémoration, et il n'y a rien contre ça. Mais ils se sont acquittés de leur tradition, c'est certain, mais ils ont laissé de côté l'essentiel. Combien vous êtes religieux ou combien vous avez la doctrine juste, Satan, ça lui est bien égal. Si vous n'avez pas cette vie, vous ne ressusciterez pas de toute façon. Peu importe combien vous êtes religieux, votre bonté, le nombre d'églises dont vous avez fait partie ou dont vous ferez partie, ça n'a pas la moindre importance si vous n'êtes pas né de nouveau. Par conséquent, si Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, est-ce qu'il l'a ressuscité dans le but d'une commémoration? Et ce matin de la résurrection est seulement un jour de l'année ou un jour précis où nous célébrons ceci? Ou bien sommes-nous bénéficiaires de sa résurrection? Quelle en est la portée pour moi? Quelle en est la portée pour vous? Or, nous croyons par la foi qu'il est ressuscité des morts. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Ça, c'est arrivé il y a 2000 ans. Maintenant, ce qui m'a fait trouver ce sujet, comme j'étais fatigué, que mon bras me faisait mal à cause des piqûres que l'infirmière m'avait données. En effet, je pars outre-mer maintenant, comme vous le savez, dans quelques jours, et je dois avoir ces piqûres, mon fils et moi. Avec tout ça, le choléra, la fièvre jaune et tout, j'étais pas mal épuisé. Ça m'a rendu malade. Et César exige qu'on ait ces piqûres avant d'aller dans cet autre pays. Et il a dit, « Rendez à César ce qui est à César, mais rendez aussi à Dieu ce qui est à Dieu. » Et comme j'étais assis là, à me demander ce que j'allais dire à cet auditoire en attente ce matin, et je suis très reconnaissant de ça, des hommes et des femmes qui s'en tiendront à ce que vous dites au péril même de leur vie. Comment procéder? Qu'est-ce que je devrais prendre comme sujet? Et alors, pendant que j'étais assis là, presque endormi, on a cogné à ma porte, celle du devant de la maison. Il n'y avait personne d'autre que moi dans la maison, à ma connaissance. J'ai écouté. Je n'avais pas très bien distingué ce que c'était. Au bout d'un moment, à la porte de mon cabinet de travail, par laquelle je passe pour aller dans mon bureau, On a cogné. Quelqu'un secouait la porte sans arrêt. Je suis allé à la porte. J'ai ouvert la porte et, à ma surprise, une jolie petite fille aux cheveux blonds et aux yeux bleus se tenait là. Elle avait l'air d'une petite fleur de Pâques. Elle est assise ici en ce moment, en train de me regarder. Elle m'a tendu une carte. Et c'était, naturellement, quand je rentrerai, il y aura des cartes de Pâques et tout. Mais celle-là était la seule, depuis que j'avais quitté la maison, que j'avais reçue. Et elle a dit, « Frère Branham, ceci, c'est de la part de papa et moi. » Elle voulait bien s'assurer que le « moi » était inclus. Et son père, qui est arthritique, assis dans un fauteuil roulant, avait envoyé cette carte. Après l'avoir prise et avoir remercié la petite chérie, comme elle faisait demi-tour et s'éloignait de la porte, j'ai ouvert la carte et c'est de la présentation de cette carte que j'ai tiré mon thème. En effet, sur la carte, il y avait le lever du soleil de Marc 16, 1 et 2. Le soleil se levait. Alors, j'ai pensé à ça et puis à ce sujet de la vivification de Jésus-Christ qui allait être ressuscité des morts. De là, j'ai tiré mon sujet. Alors, le soleil, au lever du soleil. Eh bien, il y a eu un temps où le monde gisait dans l'obscurité la plus complète. Il était informe et il était vide. Et il était complètement couvert d'eau, et il gisait là, dans cette atmosphère sombre, morne, lugubre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de cette eau, et il a dit « que la lumière soit ». Dieu avait une raison de faire ça, car enfoui sous cette eau, il y avait des semences qu'il avait plantées, et il fallait qu'elles aient cette lumière du soleil pour pouvoir vivre. Et la toute première lumière qui a été donnée sur la terre, c'est la parole parlée de Dieu. La toute première lumière qui a frappé la terre, c'est la parole parlée de Dieu. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est ainsi que les ténèbres se sont transformées en lumière, pour que puisse être produite une création de joie et de vie sur la terre. Alors, l'Esprit de Dieu, comme il se mouvait avec amour et avec compassion, en ce grand jour-là, le premier jour, l'aube de la création sur la terre, le soleil s'est levé, il a balayé la terre de ses rayons, et il en a séché les eaux et a produit une atmosphère au-dessus d'elle. Et c'est ainsi que, pour la première fois, la joie et la vie allaient être produites sur la terre par une semence. Cette heure-là a été glorieuse. Mais, oh, ce lever du soleil-là n'avait rien de comparable avec le lever du soleil de ce matin de Pâques. Cette fois, le soleil qui s'était levé dans les cieux a produit le lever du soleil le plus glorieux qu'il y ait jamais eu. Parce qu'avec ce lever du soleil est arrivée une nouvelle plus importante qu'au lever du soleil du commencement. Ce lever du soleil a apporté la nouvelle qu'il est ressuscité. Il est revenu à la vie, d'entre les morts, comme il l'avait promis. Il est ressuscité des morts. La première fois que le soleil s'est levé dans la Genèse, il apportait le message qu'il y aurait de la vie sur la terre, la vie mortelle. Mais cette fois, quand le soleil s'est levé, il y a eu un double lever du soleil, un autre lever, celui du Fils. C'était le, non seulement le lever du S-U-N, du soleil, mais c'était le S-O-N, le Fils, qui s'était levé pour apporter la vie éternelle à toutes les semences promises de Dieu, dont il avait vu par sa prescience qu'elles se trouvaient sur la terre. De même que les végétaux n'auraient pas pu vivre là-bas au commencement sans qu'il y ait le S-U-N, le soleil, pour leur donner la vie, de même aujourd'hui, quand les fils de Dieu sont sur la terre, il faut qu'il y ait la lumière du S-O-N, du Fils, pour leur donner la vie éternelle. Ceux qu'il avait choisis, qu'il connaissait avant la fondation du monde, il les avait choisis en lui-même avant la fondation du monde. Et le matin de Pâques, donc, enfoui quelque part dans la terre, il y avait nos corps à ce moment-là, car nous sommes la poussière de la terre. Et dans le ciel, il y avait un livre de souvenirs, et ses attributs étaient en lui. Il savait que parce que ce Fils de Dieu était ressuscité, cela ramènerait aussi à la vie tous les fils qui avaient été prédestinés à arriver à ce grand moment. Il savait que la chose se ferait. Et ce lever du soleil, là, combien plus glorieux il a été que celui du commencement, au moment où l'aube a paru pour la première fois. Maintenant, ce grand événement, où le sceau de Pâques a été brisé. Bon, aujourd'hui, nous avons un timbre de Pâques, le timbre antituberculeux. Les gens voient un message les uns aux autres, et pour soutenir ce grand fond, ou cette grande campagne visant à permettre aux médecins et à la science médicale d'élaborer quelque chose pour retarder la tuberculose ou y remédier. Il y a ce sceau, ce que nous appelons un timbre de Pâques, quand nous envoyons un message les uns aux autres. Mais quand nous recevons le message, ce sceau est brisé, parce que le sceau, c'est ce qui retient le message à l'intérieur. Et maintenant, le véritable sceau de Pâques, au moment de se lever du soleil, il a été brisé. Et le secret de la vie après la mort a été révélé. Avant ce moment-là, nous ne savions pas. Le monde avançait à tâtons dans l'obscurité, à l'aveuglette, selon les soupçons des hommes. Il y avait des théories au cœur des hommes, une tradition qu'ils s'étaient formée. Les hommes adoraient des idoles, ils adoraient le soleil, ils adoraient des dieux de toutes sortes. Et toutes sortes de gens qui avaient fait des déclarations, ils sont tous allés dans la tombe, et ils sont restés dans la tombe. Mais le vrai sceau avait été brisé. Et celui qui, à un moment donné, avait vécu comme nous vivons, était mort comme nous mourons. Il était ressuscité des morts. Quel matin! Il n'y en a jamais eu un comme celui-là, de toute l'histoire du monde. Le secret avait été divulgué. Il était à la fois la résurrection et la vie. Et il a dit, quand il est revenu ce matin-là, « Parce que moi je vis, vous aussi vous vivez. » Non seulement il était le bénéficiaire de la résurrection, mais toutes ces semences qui reposaient dans la grande promesse de Dieu étaient bénéficiaires de cette résurrection, ce retour à la vie, puisqu'il a dit, « Parce que moi je vis, vous aussi vous vivrez. » C'est alors que le sceau a été brisé, parce que lui a été ramené, de même tous ceux qui sont en Christ seront ramenés avec lui. À ce glorieux lever du soleil, Dieu avait prouvé ou confirmé sa parole. Toute la tristesse et le doute qui s'étaient installés dans l'esprit des gens avaient été dissipés. Car il y avait là celui qui avait vécu, qui avait mangé, qui avait bu, et qui avait été en communion avec le genre humain. Celui qui avait dit, « J'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de la reprendre. » Et maintenant, voilà qu'il n'avait pas seulement fait cette affirmation, mais il avait prouvé quelle était la vérité. Oh, comme c'est glorieux! Je suis sûr ce matin que nous-mêmes, qui le croyons, nous ne pouvons pas saisir toute l'importance de cette chose-là. Parce que lui, il est ressuscité des morts, nous aussi, nous sommes déjà ressuscités des morts, car nous étions en lui. Remarquez maintenant, comme les ténèbres couvrent la terre et que les semences ne pouvaient pas vivre sans que le S-U-N, le soleil, se lève, alors les ténèbres avaient couvert la terre. Et maintenant, le S-O-N, le Fils, s'est élevé, et toutes les ténèbres ont été dissipées par cette lumière, alors qu'elle s'est répandue dans tous les pays vers les gens déclarant, « Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. » Quelle déclaration! Il avait prouvé sa parole. Il l'avait prouvé qu'elle était vraie, car il avait maintenant vaincu la mort, le séjour des morts et la tombe. La trinité du diable, la mort, le séjour des morts et la tombe. En effet, Satan est l'auteur de la mort. Il est le possesseur du séjour des morts et aussi de la tombe. C'était là la trinité de Satan. Et une seule chose en était la cause, c'était la mort. La mort vous envoie dans la tombe, et en étant un pécheur, vous allez au séjour des morts. Tout cela, c'était une seule chose, la trinité de Satan, c'est-à-dire la mort. C'est ce qui avait retenu l'homme captif pendant toutes ces années. Mais maintenant, la véritable trinité de Dieu, qui est un seul, manifestée en Christ, celui qui était la vie et qui avait brisé les sceaux et vaincu l'ennemi, et qui était ressuscité, le seul Dieu vivant et vrai. Je suis celui qui était mort, et je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Dieu, un seul, s'est fait homme, et il a habité parmi nous, et il a vaincu tous les ennemis. La preuve avait alors été faite que la trinité de Satan avait été vaincue, et que la trinité de Dieu avait été divulguée, parce que Dieu seul, lui seul, avait le pouvoir de ramener à la vie. Il était cet Emmanuel. Dieu avait été manifesté en chair. Ce n'est pas étonnant qu'il ait pu déclarer là, dans Matthieu chapitre 27, « Tout pouvoir dans le ciel et sur la terre a été remis entre mes mains. Je vous envoie pour que vous soyez mes témoins par tout le monde. » Il avait vaincu à la fois la mort, le séjour des morts et la tombe. Non seulement il a accompli cela, et il est ressorti vainqueur avec tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Tout ce qui était le Père, tout ce qui était le Saint-Esprit, et tout ce qu'il n'y avait jamais eu se trouvait en lui. Tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, tout le reste n'a aucun pouvoir. Il l'avait vaincu. Bon, et alors, non seulement cela, mais il a envoyé un message à ses disciples, ceux qui croyaient en lui. « Ne craignez point, car je suis celui qui était mort, et je suis de nouveau vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. J'ai déjà vaincu cela. Ne craignez plus, car chaque semence de Dieu, désignée d'avance, prédestinée, prendra vie quand cette lumière se répandra sur la surface de la terre. Ce glorieux évangile, dans chaque âge, elle produira la récolte que Dieu l'a destinée à produire. Il était ressuscité des morts. Oh, quelle chose formidable! Je suis vivant ou vivifié. Ce mot veut dire, le mot vivifié, le mot grec veut dire que c'est quelque chose qui a été rendu à la vie après la mort. C'est comme la semence qui tombe en terre. Elle doit mourir, chaque parcelle de la semence. Elle doit pourrir, chaque parcelle de la semence. Et chaque parcelle de la vie qui se trouvait dans la semence doit émerger de nouveau. Il a été vivifié. Et ce n'est pas tout. Et j'enverrai la même vie qui m'a vivifié, la puissance qui m'a fait sortir de la tombe, je l'enverrai sur vous, pour vous vivifier, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dans Luc, chapitre 24, verset 49, Il a dit, « Voici, j'enverrai sur vous ce que le Père a promis. Mais vous, restez ou attendez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Ce qui montre que non seulement il en a retiré tous les avantages, mais qu'il a partagé ces avantages. Il est venu racheter ou donner la vie à ces semences prédestinées que Dieu avait vues avant la fondation du monde et dont il avait mis les noms dans le livre de vie. Et les voilà sur terre, sans espérance. Il est venu non seulement pour être la bénédiction, mais pour partager la bénédiction avec chaque semence prédestinée. Maintenant, si la semence n'était pas sur terre, elle ne pourrait pas vivre. Il fallait qu'elle soit sur terre et aussi qu'elle soit fécondée. Peu importe combien de temps elle est restée dans les ténèbres, elle émergera quand le S-O-N, le Fils, brillera sur elle. Remarquez maintenant, il est venu la partager avec nous. Ce n'est pas étonnant que l'Évangile soit une bonne nouvelle. Le mot même « évangile » veut dire « la bonne nouvelle ». La bonne nouvelle, quoi donc? Qu'un homme soit mort pour nous, ça, c'est une bonne nouvelle. Que Christ soit né, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais jamais une nouvelle, jamais il n'y a eu une nouvelle comme cette nouvelle-ci. Que celui qui a fait la promesse a confirmé la promesse. Alors, il est vivant au siècle des siècles. Il tient les clés de la mort et aussi du séjour des morts dans sa main. Toutes les ténèbres ont été dispersées. Il n'y avait plus de ténèbres en vue, car le Fils était sorti de la tombe. Pas question de dire, « Eh bien, il va venir » ou « Il se peut qu'il vienne ». Il était venu déjà. L'Évangile, la bonne nouvelle. Remarquez, en soi, le message même de l'Évangile, c'est de prouver aux gens qu'il est ressuscité. Allez dire à mes disciples que je suis ressuscité des morts et que j'irai les rejoindre pour le leur confirmer. Oh Dieu, en ce dernier jour, il y aura de nouveau de la lumière sur la surface de la terre. Et je prouverai à mes disciples, allez leur dire que je ne suis pas mort et que je ne suis pas une tradition, mais que je suis un Christ vivant. J'irai les rejoindre. Transmettez ce message à mes disciples que je suis ressuscité des morts. L'Évangile, la bonne nouvelle. Vous dites, c'est vrai ça? Hébreux 13:8 dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous, ses bénéficiaires, nous devons prouver que sa vie est maintenant en nous, les bénéficiaires de cette vie. La vie, jamais une vie comme celle-là n'a été vécue. Il était le Fils de Dieu. Il est mort et elle a été stoppée. Mais quand il est ressuscité des morts, le matin de Pâques, alors nous, qui sommes ses serviteurs, nous avons reçu de lui le mandat d'aller par tout le monde et d'apporter à chaque personne cette bonne nouvelle qu'il est vivant. Et comment pouvons-nous le faire en parole seulement? Car il est écrit, l'Évangile n'est pas venu en parole seulement, mais par la puissance et la manifestation du Saint-Esprit, pour prouver qu'il est vivant. Or, s'il y a un autre évangile, comme Paul le disait à l'un des groupes, je suis vraiment étonné que vous soyez passé à un autre évangile. Non pas qu'il y en ait un autre, mais c'est un semblant d'évangile, passé à des comptes dénominationnels en se détournant de cette bonne nouvelle. Et parce que moi je vis, vous aussi vous vivez. Et je vis en vous et les œuvres que je fais. Jean 14, 12. Les œuvres que je fais vont m'identifier, montrer que je suis en vous. Quel message! Ce n'est pas étonnant que nous ayons eu un monde de ténèbres de la théologie. Mais au temps du soir, la lumière reparaîtra. Il y aura une résurrection au temps du soir. la lumière paraîtra au temps du soir. Maintenant, l'essence même du message qui a été envoyé, c'est qu'il est ressuscité des morts. Nous, ses bénéficiaires, nous qui partageons la résurrection avec lui, nous en retirons les avantages en prouvant au monde qu'il est vivant. Nous ne pouvons pas le faire en parole seulement. Nous ne pouvons pas le faire par une tradition d'homme. Tout ce que nous faisons, c'est refléter exactement ce que nous indiquons aux gens. J'ai bien peur qu'aujourd'hui, un trop grand nombre d'entre nous ne dirige pas les gens vers Christ. Nous les dirigeons vers une église, vers une théorie. Mais nous devons les diriger vers Christ. Il est le seul, et le seul qui a la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Et si la vie d'un homme qui est mort est projetée en vous, vous vivrez la même vie que lui a vécue. Si un homme était d'un certain groupe sanguin et que vous preniez le sang d'un homme pour le substituer au sang de cet autre homme, ce dernier serait carrément de ce groupe sanguin-là. Et si votre esprit qui est en vous est regardé comme mort et que vous êtes loin de la vie qui était en Christ, quelle est sur vous? Romains 8, 11 dit, « Si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, il vivifiera aussi vos corps mortels. » Cette même vie, ces mêmes puissances, ces mêmes bénéficiaires qu'il avait ici sur terre, qui venaient de Dieu, il vous a racheté une semence qui était connue d'avance de Dieu, dont les noms ont été mis dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Et cette lumière de l'évangile, de la résurrection, la confirmation de la parole, qu'est-ce qui nous a fait reconnaître qu'il était le Christ? C'est qu'il a prouvé ce qu'il avançait. Qu'est-ce qui me fera reconnaître que c'est le message de l'heure? Dieu prouve ce qu'il a promis et ce qu'il avance. Voilà ce qui identifie que nous sommes bénéficiaires avec lui de la résurrection. Il prouve ce qu'il a avancé. Ce qu'il avait promis de faire en Christ, il l'a prouvé à la résurrection. Ce qu'il avait promis de faire à l'époque de Moïse, il l'a prouvé. Ce qu'il avait promis à l'époque d'Enoch, il l'a prouvé. Tout au long de l'époque des apôtres, il l'a prouvé. Maintenant, en ce jour-ci, il prouve ce qu'il a avancé. Parce qu'ils sont une partie de cette semence qui figurait dans le livre de vie, qu'il est venu racheter pour les ramener à Dieu. Oh, quel message! Le matin de Pâques, non seulement il est ressuscité, mais ses bénéficiaires sont ressuscités avec lui. Ils étaient en Christ à son crucifixion. Ils étaient en lui à sa résurrection. Nous sommes ses bénéficiaires. Vivifié après avoir été mort dans les ténèbres, le monde enténébré de l'incrédulité, où les églises, les dénominations et ainsi de suite nous avaient entraînés. Et il y avait quelque chose en nous qui criait, « Oh, nous voulons Dieu, nous avons faim et soif de Dieu. » Nous nous sommes joints aux méthodistes, aux baptistes, aux pentecôtistes, aux presbytériens et quoi encore. Et malgré tout ça, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Nous n'avions pas encore trouvé. Et tout à coup, pendant que nous avancions à tâtons dans l'obscurité, la grande résurrection est venue à nous, par la manifestation de la parole promise de Dieu. Tout comme lui, il était la manifestation de la parole promise de Dieu. Je n'abandonnerai pas son âme dans le séjour des morts, et je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Il a manifesté cela, chaque parole de Dieu qui lui avait été promise. Il l'a prouvé quand il est ressuscité le matin de Pâques. Maintenant, ceux qui autrefois avançaient à tâtons dans l'obscurité et qui se posaient toutes sortes de questions, est-ce qu'ils devraient laver les pieds ce jour-ci, ou est-ce qu'ils devraient célébrer tel jour, ou agir selon tel ensemble de règles, toutes ces choses-là ont disparu. En effet, il y a eu une glorieuse résurrection qui a bravé tout ce qui était de l'homme, tout ce qui avait jamais été fait de main d'homme, tous les raisonnements humains. Il n'y avait jamais eu, jusque-là, un homme qui avait pu donner sa vie et la reprendre. En ressuscitant, il a bravé cette preuve scientifique qu'ils avaient. Quand ils disent que Jésus-Christ n'est pas le même hier, aujourd'hui, éternellement, que sa puissance n'est pas la même, que son évangile n'est pas le même, alors que la Bible dit qu'il est le même. Dieu a bravé toutes les dénominations, tous les credos. Il est allé de l'avant avec son Saint-Esprit, comme il l'avait promis. Il nous l'a prouvé qu'il est vivant. Nous sommes les bénéficiaires de sa résurrection. Vivifié après avoir été mort dans le monde par notre péché et par nos offenses, il nous a vivifiés ensemble avec lui, ressuscités avec lui, assis maintenant dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Son esprit ramène sur terre la vie même qu'il avait. Si l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Christ, le corps oint, si l'Esprit de Dieu a oint ce corps-là, à tel point que, quand cette semence est tombée en terre, il n'a tout simplement pas permis qu'il repose là. Non, il l'a vivifié et l'a ressuscité. Si ce même Esprit, par les mêmes œuvres, par la même puissance, par les mêmes signes est en vous, il vous ressuscitera aussi. J'aimerais vous lire un petit passage de l'Écriture ici. J'aimerais vous faire prendre un autre passage de l'Écriture que j'ai noté ici. Ça pourra peut-être vous aider un peu. Il se trouve dans le livre du Lévitique, au chapitre 23, les versets 9 à 11. Écoutez bien. Dans la loi du Lévitique, c'est Dieu qui parle à Moïse. Écoutez. Or, toutes ces choses sont des types, et nous allons nous arrêter quelques instants sur ce type-ci. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, quand vous entrerez dans le pays que je vous donne, arriverez dans le lieu, à la position que je vous ai donnée. Maintenant, parle aux enfants d'Israël. Dis-leur que quand vous arriverez à ce lieu précis où je vous ai promis de vous emmener, quand vous arriverez là-bas dans ce pays, maintenant nous parlons du naturel ici pour montrer en type le spirituel, et que vous y ferez la moisson, que vous aurez reçu ce que je vous en avais dit, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée pour vous. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. S'il devait y avoir quelque rite sacré, il devrait s'accomplir le jour du sabbat, ce qui était le septième jour de la semaine, c'est-à-dire le samedi. Mais avez-vous remarqué que dans cette fête commémorative, il fallait que ce soit agité de côté et d'autre le premier jour de la semaine? La gerbe, la première de la semence que vous aviez plantée, quand elle aura poussé et qu'elle aura mûri, coupez cette gerbe et apportez-la au sacrificateur, et qu'il la prenne et l'agite de côté et d'autre devant l'Éternel, pour que vous soyez agréés, que vous soyez acceptés. Vous êtes venus avec votre gerbe, et il doit l'agiter de côté et d'autre devant l'Éternel, non pas le jour du sabbat, le septième jour, mais le premier jour, que nous appelons le dimanche, S-U-N-D-A-Y, le jour du soleil. Évidemment, c'est un mot romain. Eux, ils l'appelaient le jour du soleil à cause du dieu soleil. Mais il y a eu tout un changement. Maintenant, ce n'est plus S-U-N, soleil, c'est S-O-N-D-A-Y, le jour du Fils. Où ce grain de blé, le premier de ceux qui appartiennent à Dieu, qui s'est levé d'entre les morts, doit être agité de côté et d'autre au-dessus de l'assemblée pour montrer que nous sommes sa semence. Et c'est là le premier de la semence de ceux qui se sont endormis, qui a été agité de côté et d'autre le premier jour de la semaine. Le dimanche, il est ressuscité. Il a agité la main de côté et d'autre en guise d'au revoir, et en présence des gens, il est monté dans les hauteurs. Remarquez, c'était le premier grain du blé de Dieu qui avait été ressuscité des morts, le premier grain de blé de Dieu. Par la puissance vivifiante de Dieu, Dieu avait vivifié sa vie, l'avait ressuscité des morts. Et il était les prémices de ceux qui s'étaient endormis, les prémices. Il était cette gerbe. Voilà pourquoi il fallait qu'ils agitent de côté et d'autre cette gerbe, parce que c'était la première qui était venue à maturité. Et elle était agitée de côté et d'autre comme commémoration pour rendre grâce à Dieu en croyant que les autres viendraient aussi. C'était un signe. Et aujourd'hui, parce qu'il a été le premier fils de Dieu à atteindre la pleine maturité, à être en Dieu, il a été arraché de la terre et il est agité de côté et d'autre au-dessus des gens. Oh, quelle leçon glorieuse! Par la puissance vivifiante, le premier, bien qu'il ait été préfiguré, et à maintes reprises, comme nous le verrons plus tard, il avait été préfiguré. Mais ici, il s'agissait des prémices réelles, de ceux qui s'étaient endormis. Il a été agité de côté et d'autre au-dessus de la semence promise, qui avait reçu la promesse de la vie. Il a été agité de côté et d'autre le jour de la Pentecôte, lorsqu'il vint du ciel un bruit, comme une agitation, comme un vent impétueux. Il a été agité de côté et d'autre au-dessus des gens de la Pentecôte qui étaient là, à la Pentecôte, à attendre que vienne la bénédiction. Et nous sommes conscients qu'il doit de nouveau être agité de côté d'autre au dernier jour, selon Luc 17, 30, au jour du Fils, de nouveau, au jour où le S-O-N, le Fils de l'homme, sera révélé, ou de nouveau agité de côté d'autre au-dessus des gens. Mais qui donc est le Fils de l'homme? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Si donc, avec tout l'enseignement que nous avons, et avec la confirmation de la parole de Dieu, par des signes, par des prodiges, nous voyons aujourd'hui, là, dans le livre de Luc, ici, ce que nous venons de citer là, ou dans Luc, au chapitre 17, et le verset 30, et Malachie 4, et les différents passages de l'Écriture que nous connaissons, que cette parole, de nouveau, elle est agitée de côté d'autre au-dessus des gens, pour montrer que les traditions mortes de l'homme sont mortes, et que le Fils de Dieu est de nouveau vivant par le baptême du Saint-Esprit, ici même parmi nous, et qu'il nous donne la vie. Comme Christ a été le premier à ressusciter de tous les prophètes et tout, bien qu'il ait été préfiguré dans de nombreux passages, il a été les prémices de ceux qui s'étaient endormis, de l'épouse provenant de Christ, détachée de l'Église. Une gerbe devra de nouveau être agitée de côté et d'autre dans les derniers jours. Oh là là! La gerbe agitée! La gerbe, c'était quoi? La première qui était venue à maturité. La première qui avait prouvé qu'elle était du blé. Qui avait prouvé qu'elle était une gerbe. Alléluia! Je suis sûr que vous voyez de quoi je parle. Elle était agitée de côté d'autre au-dessus des gens. Et pour la première fois, ce qu'il y aura pour l'âge de l'épouse, pour amener une résurrection, faire sortir des ténèbres du système des dénominations, ce sera un message disant que la pleine maturité de la parole est revenue de nouveau avec sa pleine puissance. Elle sera agitée au-dessus des gens par les mêmes signes et les mêmes prodiges qu'il avait accomplis à l'époque. Parce que moi, je vis, vous aussi, vous vivez. Il parle à son épouse. Parce que moi, je vis, vous aussi, vous vivez. Quelle résurrection que celle-là! Et quelle résurrection que celle-ci! D'être vivifié, relevé d'entre les morts, d'être rendu vivant en Jésus-Christ, par la puissance vivifiante de Dieu. Il a été agité de côté d'autre devant eux. La parole, c'est ce qu'il était. Elle a été de nouveau agitée de côté d'autre devant eux au jour de la Pentecôte, la parole manifestée. Maintenant, et comme je le disais, elle doit être de nouveau agitée de côté d'autre au dernier jour. Maintenant, par exemple, vous dites, « Eh bien, une minute là, frère Branham, je connais une église qui... » Eh bien, moi aussi j'en connais une, voyez. Mais maintenant, par exemple, que se passerait-il si nous allions retourner à Tucson cet après-midi, là, et que chacun de nous avait allait s'y rendre dans une grande Cadillac, toute neuve. Et les banquettes seraient toutes en peau de daim, le cuir le plus souple. C'est doux et confortable. Et le plancher serait pelucheux, le volant serait nickelé, avec des clous décoratifs à diamants partout dessus. Et le moteur aurait été testé côté mécanique, ce serait exactement le moteur qu'il faut. Et les roues seraient avec tout leur roulement et bien graissées. Et tous les pneus seraient à l'épreuve des crevaisons et exempts de toute possibilité d'éclatement. Et tout aurait été testé scientifiquement. Elles seraient sorties de la chaîne de montage, toutes les deux, et on aurait rempli les réservoirs d'essence de toutes les deux. Ça, c'est la puissance motrice, l'essence, parce qu'elle contient l'octane. Mais maintenant, quand vous essayez de les démarrer, elles ont pourtant exactement la même apparence, toutes les deux. Mais l'une d'elles n'a pas d'étincelle, pas de puissance d'allumage. Eh bien, vous dites, la puissance est dans l'essence, frère Branham. Mais peu m'importe combien il y a de puissance dans l'essence, s'il n'y a pas d'étincelle là pour manifester cette puissance, s'il n'y a pas de puissance là pour confirmer que c'est bien de l'essence, ça pourrait tout aussi bien être de l'eau. Tant que, peu importe tout ce que les théologiens peuvent faire comme affirmation, combien votre Église peut être bien organisée, toute l'instruction que vous pouvez avoir, et combien elle peut être conforme à la Bible, tant que cette gerbe agitée, tant que le Saint-Esprit ne viendra pas sur cette personne pour vivifier cette parole. L'essence représente la parole, elle est la vérité, mais sans l'Esprit, elle n'agira pas. Nous avons trop insisté sur la mécanique et pas du tout sur la dynamique. Il faut la puissance dynamique de Dieu, la puissance de la résurrection de Jésus-Christ sur l'Église pour manifester et pour accomplir, montrer que ceci est bien de l'essence. Ça pourrait être dans un bidon d'essence, ça pourrait quand même être de l'eau, voyez-vous. Mais la seule preuve, c'est de lui appliquer cette vie. Et c'est elle qui prouvera si c'est de l'essence ou pas. Et quand vous essayez de mettre le Saint-Esprit dans une dénomination, c'est comme si vous essayiez, vous obtiendrez peut-être un bafouillage. Vous allez bousiller votre moteur en l'encrassant de carbone. Mais, oh, je suis si content qu'il existe une puissance à un indice d'octane de 10 000, la parole de Dieu, et un Saint-Esprit pour l'allumer, et pour ressusciter la puissance de Dieu dans la vie d'un homme, ou dans la vie d'une femme, ou dans une église. Voilà ce qu'a lancé cette Cadillac à fond de train sur la route là-bas, sous la puissance dynamique du Saint-Esprit, qui est revenu et qui a été agité de côté d'autre, au-dessus des gens, au jour de la Pentecôte. C'est ce qui fait qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà la première gerbe qui a été produite de tous les prophètes. C'était le Fils de Dieu, le roi de tous les prophètes. Il y a eu des églises, des épouses, des épouses, des églises, des épouses, des épouses. Mais il doit en venir une. Alléluia! Il doit venir une vraie épouse. Il faut qu'il en vienne une qui n'a pas seulement la mécanique, mais qui en a la dynamique, ce qui fait vivre cette Église, agir par la puissance de sa résurrection. Tant que nous n'arriverons pas à ce lieu-là, tant que nous n'aurons pas trouvé ce lieu-là, ça sert à quoi de polir les moyeux? Ça sert à quoi de refaire la carrosserie ou de la lustrer s'il n'y a pas de dynamique dedans? Peu importe combien il ait été prouvé que la mécanique était bonne, il faut qu'il y ait une dynamique pour la faire agir. C'est ça qu'il a prouvé. Alléluia! C'est ça que Pâques a prouvé. Il n'était pas seulement la parole, mais il était Dieu lui-même, la dynamique dans la parole, qui a donné au corps de Jésus-Christ, froid, raide et mort dans la tombe, de reprendre vie d'un coup, de ressusciter et de rouler la pierre. Je suis celui qui était mort, tellement mort, que le soleil avait déclaré qu'il était mort, que la lune avait déclaré qu'il était mort, que les étoiles avaient déclaré qu'il était mort, la nature tout entière avait déclaré qu'il était mort. Et maintenant, le monde entier doit reconnaître qu'il est revenu à la vie. Il n'était pas seulement la mécanique, la parole de Dieu, il était la dynamique pour le prouver. Et puisqu'il est l'époux, l'épouse doit ressusciter, parce qu'elle est une partie de lui. Et elle ne peut être rien d'autre que la manifestation de l'accomplissement de toutes les révélations, de tout ce que d'autres avaient annoncé au sujet de l'épouse. Elle ne peut que manifester. Si elle fait autre chose que ce que l'époux avait fait, elle n'est pas l'épouse. En effet, elle est chair de sa chair, eau de son os, vie de sa vie, puissance de sa puissance. Elle est lui. De même que l'homme et la femme sont un, et que la femme a été prise de son côté, elle, en recevant un esprit, l'esprit féminin qui vient de lui. La chair de son côté, ce qui a alors constitué la mécanique et aussi la dynamique, sa femme, son esprit à lui et sa chair à lui. En les réunissant, cela a constitué la mécanique et la dynamique. Tant que l'Église ou les gens, toutes ces choses-là, les lapins de Pâques, les cérémonies, les grandes églises et les parures imposantes, elles cesseront et disparaîtront. Tant que cette Église ne deviendra pas la dynamique et aussi la mécanique, avec l'Esprit de Dieu qui lui avait fait faire à lui les choses qu'il avait faites. Si, dans son cas, lui, il y a eu 16 cylindres qui fonctionnaient, ce sera pareil pour l'épouse. Amen. Car il a dit dans Jean 14, 12, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Je mettrai en lui une charge de ma dynamique dans sa mécanique et le monde ne pourra pas y résister et je le ressusciterai au dernier jour. Voilà le message de Pâques, la dynamique et la mécanique ensemble. La mécanique sans la dynamique ne sert à rien et la dynamique non plus sans la mécanique. Vous aurez beau pousser des cris, jubiler et sauter en l'air tant que vous voudrez. Si vous niez la parole, ça ne servira à rien. Vous vous éreintez à tourner la manivelle pour actionner les pistons de... L'étincelle est là pour l'allumage, mais il n'y a pas d'essence pour permettre l'allumage. Ça fonctionnera seulement quand les deux sont réunis. Amen. C'est pourquoi l'une va rester sans bouger, tandis que l'autre va monter. C'est aussi simple que ça. Pourtant, elles pourraient avoir toutes les deux la même apparence, prétendre toutes les deux être des églises, prétendre toutes les deux être l'épouse. Mais l'une a la mécanique et la dynamique, ce qui accomplit ce qu'il a dit, montrant que c'est bien la vérité. Elle ne bougera tout simplement pas, peu importe combien la mécanique peut être bonne, tant que la dynamique ne sera pas venue. Quand la dynamique vient, ce feu entre alors en contact avec l'octane de l'essence. Et quand cela explose, il y a alors une combustion. Et cette combustion met en branle toutes les articulations, tous les mouvements, car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà la résurrection. Voilà la vraie puissance de Dieu. La mécanique avec la dynamique. Remarquez, c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'étincelle qui produit l'allumage. Ce n'est pas l'essence qui produit l'allumage, c'est l'étincelle qui produit l'allumage de l'essence. Voyez ? Vous ne pouvez rien faire sans moi, mais avec moi, vous pouvez tout faire. Puisqu'il est la parole, c'est le Père qui vit. Le Père m'a envoyé et moi aussi je vous envoie. Comme c'est le Père qui a produit en moi l'allumage et qui m'a poussé dans tout, je fais seulement ce qui est agréable à Dieu. Maintenant, comme il m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, avec la même mécanique, et il faudra la même dynamique pour la faire agir. Voici les signes qui accompagneront ceux qui prétendent avoir la mécanique. La dynamique prendra sa position. Paul a dit, l'Évangile n'est pas venu à nous en parole seulement, par l'essence seulement, mais aussi par l'étincelle pour le faire agir. Voilà, il est venu à nous de cette manière-là. C'est le même esprit qui l'a ressuscité, qui a vivifié le véritable croyant pour la vie éternelle. Maintenant, souvenez-vous, potentiellement, maintenant, observez, là, notre temps file. Remarquez, le même esprit, Maintenant, Romains 8:1. Maintenant, relisons donc ça dans Romains 8:1 et nous verrons ce qui y est dit. Bien. Non pas Romains, je veux dire 8:11. Excusez-moi. Dans Romains 8:11. Et si, c'est ça le problème. C'est là que ça se complique. Et si l'esprit de celui, Dieu, le Saint-Esprit, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, habite en vous? C'est ça. Si l'esprit de l'époux habite dans l'épouse. Quand Dieu a fait son premier époux, il a fait l'époux en premier. Et celui-ci était à la fois homme et femme en esprit. Il l'a formé de la poussière de la terre pour le matérialiser. Et remarquez, quand il a fait Ève, qui a été tirée d'Adam, il n'a pas pris un autre morceau d'argile. Il l'a tirée du même morceau d'argile, de la même parole, puisque Adam était une parole parlée. Voyez, il l'a tirée de lui. Et ensuite, il a pris le... Il y avait en lui un esprit masculin et féminin. Et il a ôté l'esprit féminin d'Adam et l'a placé en Ève. Donc, encore là, c'est une partie de l'esprit d'Adam. C'est la chair d'Adam. Ensuite, c'est l'esprit d'Adam, la dynamique, qui a vivifié la mécanique de son corps. Donc, l'épouse aussi doit être chair de sa chair et os de son os. Alors, comment cette chair mortelle va-t-elle devenir sa chair? Nous allons y venir dans un instant. Comment la chose s'opère-t-elle? Comment? Quelle est cette grande transformation? Remarquez, maintenant, si l'esprit de celui, Dieu, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vivifiera vos corps mortels aussi, par son esprit qui habite en vous. Celle qui a été prédestinée, bien sûr, comme la semence qui reposait sur la terre, celle qui avait la vie en elle. Un grand nombre d'entre elles étaient mortes. C'était des semences pourries, sans plus. L'eau et tout les a consumées. Mais vous savez, il y avait une semence qui reposait là, prête à recevoir la vie. Dieu savait qu'elle reposait là. Ceux qui ont été prédestinés sont les premiers à être vivifiés par le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit vient prendre possession des siens. Ça, c'est profond, là, et assurez-vous de bien le saisir. Maintenant, de même que le soleil avait été envoyé sur la surface de la terre, non pas pour faire vivre les pierres, qui étaient aussi faites de terre. Il ne devait pas faire vivre tout ce qui était fait de terre, mais il devait faire vivre la partie de la terre qui enserrait une vie. Ce ne sont pas tous les hommes qui recevront Christ. Oh non! Mais ceux à qui Dieu a prédestiné la vie, qui sont enfermés dans une partie de la poussière de la terre, c'est celui-là qu'il vient vivifier. Ce sont ceux-là. Bon, là, il y a cette terre qui reste là sous le soleil et qui dit, « Oh, ce vieux soleil, il est tellement chaud !» Il y a cette pierre qui dit, « Ce vieux soleil, il est tellement chaud !» Mais cette petite semence, elle dit, « C'est ce que je cherche !» Elle commence à prendre vie. Il a vivifié cette partie-là de la terre. En effet, le soleil a été envoyé non pas pour vivifier la pierre, non pas pour vivifier la terre, mais pour vivifier la vie de la semence. Maintenant, le Saint-Esprit vient maintenant. Bien sûr, il n'a pas été envoyé. Pourquoi tous les gens ne le recevront-ils pas? Ce n'est pas à eux qu'il a été envoyé. Un gars me disait, « Je ne crois pas, peu m'importe ce que vous pourriez dire. Si vous pouviez ressusciter les morts ou n'importe quoi, guérir les malades et le prouver de n'importe quelle façon, je n'y crois pas quand même. » J'ai dit, « Bien sûr que non, vous êtes un incroyant. Pour vous, ça ne compte pas du tout. Ce n'est même pas à vous que cela a été envoyé. C'est envoyé à ceux qui vont croire. Le message, c'est pour le croyant. Pour ceux qui périssent, c'est une folie. Mais pour ceux qui sont en Christ et qui font partie de cette semence, c'est la vie. La petite histoire un peu primitive que je raconte au sujet du fermier qui avait mis un œuf sous, ou un œuf d'aigle sous une poule. Voyez? Cet aiglon, c'était un petit animal à l'air bizarre. Alors ce fermier, il avait fait ça, cette chose-là, de mettre cet œuf d'aigle sous cette vieille poule. Et elle avait fait éclore un drôle de poussin. Et c'était une petite créature bizarre. Il ne ressemblait pas aux autres, ses plumes n'étaient pas comme celles des autres, et il était un petit bonhomme bizarre. Et tous les autres poussins étaient bien d'accord là-dessus, que c'était une créature bizarre. Et la poule allait, il n'aimait même pas la nourriture qu'elle lui donnait. Il n'aimait vraiment pas l'idée de gratter le sol dans la basse-cour. Il ne participait pas à ça du tout. Alors, il se demandait pourquoi il fallait que ce soit lui le bizarre du groupe. Voyez ? Et il ne goûtait jamais à rien qui... Il mangeait juste assez pour rester en vie, parce qu'il n'aimait pas le goût de ça, voyez-vous ? C'est parce que, dès le départ, il n'était pas un poulet, voyez ? Et là, la poule gloussait, et vous savez, les jours des miracles sont passés, ça n'existe pas, ça. Adhère à l'église. Mais ça ne l'accrochait pas, ce petit bonhomme-là. Alors, il a suivi la poule jusqu'au jour où sa maman, la vieille aigle, elle savait qu'elle avait pondu un certain nombre d'œufs et il en manquait un. Elle savait que cet aigle était quelque part. Alors, elle est partie à sa recherche. Et elle a tournoyé au sommet de la montagne et dans les vallées et partout où il aurait pu se trouver. Le moment était venu pour lui. C'était le moment où il devait naître. C'était le moment où il devait éclore. Elle s'est dit, peut-être qu'un corbeau est venu et a emporté mon œuf. Peut-être un vautour, je ne sais pas. Quelque chose a emporté mon œuf. Mais je sais, cet œuf, je l'ai dans ma pensée. J'ai un fils quelque part. Je dois aller le chercher. C'est pareil pour Dieu, il est ce grand aigle. Dans ses pensées, il savait qu'il aurait une église. Il savait qu'il aurait un peuple. Peu importe quels bras les ont étreints, peu importe sous quoi ils sont éclos, ils cherchent les siens. Et un jour, on raconte que cette vieille aigle a volé au-dessus de la basse-cour. Elle regardait partout et elle l'a trouvé. Oh, cette résurrection, de reconnaître qu'il n'était vraiment pas un poulet après tout. Il était un aigle. Et on lui avait toujours enseigné de regarder en bas, de chercher un insecte ou quelque chose dans la basse-cour. Mais il a entendu un cri qui disait, « Regarde en haut, dans cette direction-ci !» Et il a regardé au-dessus de lui, et il y avait là un animal avec des ailes de 14 pieds d'envergure, plus puissant que tous les poulets de la basse-cour. Et il affirmait qu'il était son fils. Il a dit, « Maman, comment puis-je aller te rejoindre ?» Elle a dit, « Tu n'as qu'à sauter, commence à battre des ailes, car tu es un aigle !» Voyez-vous, elle savait qu'elle avait un fils quelque part. Peu importe dans quoi il a grandi, elle a un fils quelque part. Et Dieu sait. Alléluia, il a une église prédestinée, désignée d'avance. Il le savait, il a des fils et des filles et une épouse qui attend quelque part. Quand le Saint-Esprit se met à voler au-dessus d'eux, cette gerbe agitée, oh là là, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pas un récit mythique, mais une réalité. Peu importe combien de gens avaient essayé de lui parler d'un aigle, il ne savait pas ce qu'était un aigle. Et pourtant, il était un aigle. Il ne l'a pas compris tant qu'il n'a pas vu quelque chose qui le reflétait, dont il était le reflet plutôt. Et quand on voit, non pas une dénomination, ni un doctorat en philosophie, ni un doctorat en droit, ni un bon voisin, mais un fils de Dieu, façonné à l'image de Dieu, avec la puissance dynamique de Dieu, pour correspondre à ce qui est exigé en ce jour-ci, c'est-à-dire qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, alors aucune poule ne pourra vous retenir. Il cherche sa maman, il est un aigle dès le départ. Il reconnaît ce vrai aigle. Il reconnaît l'appel de la parole de Dieu. Pourquoi il est un aigle? Un aigle s'adresse à un aigle. La parole avant la fondation. De la parole à la parole. De la parole prédestinée à la parole écrite pour l'heure. Vous prenez conscience de votre position. Il la cherche. Ce corps terrestre est vivifié et amené par l'esprit vivifiant de Dieu à l'obéissance de la parole de Dieu. Rapidement, quand il a voulu savoir comment faire pour aller la rejoindre, on lui a enseigné qu'il ne pouvait pas faire ça. Tu ne peux pas t'élever plus haut que tu sautes. Lui, c'est un poulet, voyez. Mais cet aigle a dit, ce n'est pas vrai. Eh bien, regarde les poulets. Peu importe ce que sont les poulets, toi, tu es un aigle. Vas-y, étends simplement tes ailes. Fais-leur faire un peu d'exercice. Commence à monter. De la parole à la parole. Vous ferez aussi les œuvres que je fais. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Voyez ? Parce que moi je vis, lui aussi il vit. Et si l'esprit qu'il a ressuscité d'entre les morts habite en vous, il vivifie votre corps mortel. Voyez ? Qu'est-ce qu'il produit comme effet ? Maintenant écoutez, pour que vous sachiez. Et ce Pâques-ci, je veux qu'il ait une plus grande portée pour vous que tout autre Pâques en a jamais eu. Voyez ? Je veux que vous le voyez. Nous savons quel effet il a produit dans son cas à lui, mais je veux que vous le voyez, qu'il ne va pas produire, mais qu'il a dès à présent produit le même effet dans votre cas à vous. Voyez ? Qu'est-ce qu'il produit comme effet ? Il vivifie le corps mortel. Ce corps mortel dans lequel nous vivons, il le vivifie. Autrement dit, il lui rend la vie. Maintenant, vous qui, autrefois, vous promeniez avec un énorme cigare à la bouche, et tout, ou un paquet de cigarettes, et vous, les femmes, qui autrefois aviez les cheveux courts, vous étiez maquillées et vous faisiez n'importe quoi, vous portiez des shorts et des choses du genre. Tout à coup, quelque chose a crié. Vous avez regardé ici et c'était la parole. Voyez-vous, cela vivifiait votre... Vous avez dit, plus de shorts pour moi, plus d'alcool pour moi, plus de mensonges, plus de vols, plus de ceci, cela. Voyez, l'esprit qui l'a ressuscité des morts, s'il habite en vous, vos corps mortels aussi, qui sont la poussière de la terre, il les assujettira. Vous voyez, c'est-à-dire quoi ? Les assujettira à quoi ? À Christ. Christ, c'est qui ? La parole. Pas la théologie, mais la parole. Alors, vous qui dites que ces choses-là, oh moi, je trouve qu'il n'y a pas de mal à ce que les femmes portent le pantalon, alors que la parole dit non. Voyez-vous, il vous vivifie à cela. Voyez, vous êtes attiré vers cela. Voyez-vous, il s'agit de vous alors. Cela devient, vous devenez une partie de la parole. Cela amenait votre corps, non pas. Eh bien, vous dites, eh bien, je vais vous dire quelque chose. Mon pasteur, peu m'importe ce que votre pasteur a dit, c'est ce que la parole dit. Si vous voulez être un poulet, restez avec eux. Mais si le pasteur dit autre chose que cette parole, alors il n'est pas un nourrisseur d'aigle. Non, il est un nourrisseur de poules, voyez-vous, et non d'aigle. Voyez ? L'aigle mange la nourriture des aigles. Voyez, cela vivifie. La Bible dit que c'est mal de faire ça. Et les hommes, et tout, et toutes les choses que vous faites, c'est mal. Vous dites, les jours des miracles sont passés. Cette Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'ils disent, c'est de la télépathie mentale, et c'est un jour de lecture des pensées, ça, le discernement, et tout ça, les visions et tout, ce sont des absurdités. Voyez-vous, ils sont des poulets. Ils ne savent pas ce qu'est la nourriture des aigles. Mes frères, quand vous entendez ce cri, il y a quelque chose en vous. Vous êtes un aigle dès le départ. Pourquoi ? Vous êtes cette semence qui s'est fait jour par la résurrection du S-O-N, du Fils, et par la gerbe agitée sur terre, pour vous faire reconnaître que vous êtes un aigle et non un poulet dénominationnel. Le voyez-vous ? Ah, si l'esprit qu'il a ressuscité d'entre les morts, la parole, la dynamique de la parole, habite en vous, il vivifie aussi votre corps mortel. Maintenant, comment donc sommes-nous chairs de sa chair et os de son os ? C'est parce que, rapidement, lors même que nous sommes encore des pécheurs mortels, sur le point de mourir, ces corps le sont, il vivifie ce corps. Vivifier, c'est quoi ? Rendre la vie. L'esprit qui autrefois aimait boire, sortir, commettre adultère et toutes ces choses, il est vivifié. Eh bien, ces choses-là est morte et vous êtes ressuscité. Il vivifie votre corps mortel. Par conséquent, votre corps est le temple de la dynamique. Parce que, quoi ? Depuis le commencement, vous êtes une partie de la mécanique. Oh ! Voilà votre résurrection. Voilà l'Église dans la résurrection avec lui. Ces corps, maintenant même, ils sont vivifiés. Voyez-vous, vous avez entendu, vous croyez, cela vous a transformé. Vous êtes passé d'une dénomination à la parole. Voyez, la dynamique, si elle est mise sur de l'eau, tout ce qu'il y aura, c'est un bafouillage. Et je vous dis, miracles sont passés. Pout, pout, pout. Oh, je crois la Bible. Pout, pout, pout. Mais ça n'existe pas. Pout, pout, pout. Voyez? Mais quand il descend sur cet indice d'octane de 1000, vroom, la voilà partie. Vous voyez? Oh là là, quand la dynamique descend là-dessus. Mais si elle descend sur un poulet, ça ne servira à rien. Mais quand elle descend sur l'aigle, il décolle. Amen. La dynamique avec la mécanique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, s'il est un véritable aigle, là, il comprendra. Permettez-moi de vous éclaircir un petit passage de l'Écriture ici. Je pense que nous ne sommes plus reliés par le téléphone, mais nous sommes toujours ici. Dans Jean 5, 24, Jésus a dit, « Celui qui entend ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. » Maintenant, regardez, si je descendais la rue en prenant ça au pied de la lettre, ce qu'il en est, sans avoir la compréhension spirituelle, sans lui faire dire autre chose, mais en disant simplement ce qui y est dit. Voyez-vous, le bon mot là dans le texte grec, dans le texte original, il est dit « celui qui comprend ma parole ». Maintenant, pour démontrer que c'est bien vrai, j'irai par ici et voici un ivrogne qui vient dans la rue et avec la femme d'un autre homme à son bras et en jurant et en prenant le nom de Dieu en vain et tout le reste comme ça. Hé, as-tu entendu ce que ce prédicateur a dit? As-tu entendu? Oui, je l'ai entendu. Ça ne veut pas dire que lui, il a la vie éternelle. Voyez? Voyez? Celui qui comprend ma parole. Celui qui est un aigle. Bon, frère Branham, je veux plus de références bibliques que ça. Très bien. Mes brebis entendent ma voix. Elles ne suivront pas un étranger, comme dans le cas du mariage et du divorce l'autre jour. Alors que ce que le Saint-Esprit m'avait dit, j'étais venu le dire exactement comme il me l'avait dit. Une dame qui était ministre m'a vraiment passé un bon petit savon pour ça. Elle a dit, « Je suppose que vous prenez la place de Dieu. » J'ai dit, « Non, madame. » Elle a dit, « Eh bien, vous leur avez dit que leur péché était pardonné. » Elle a dit, « Où ?» Elle a dit, « Dieu seul a ce pouvoir. » Voyez-vous, un autre pharisien, voyez. J'ai dit, « Vous voyez, pour que vous sachiez, là, Jésus a dit à Pierre et aux apôtres, après qu'il a eu reçu la révélation de qui il était, il lui avait dit, « Tu es Christ, le Fils de Dieu. » Il a dit, « Tu es heureux, voyez-vous, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui l'a révélé. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Et je te donne les clés. Ce que tu liras sur la terre, je le lirai dans les cieux. Ce que tu déliras sur la terre, c'est cette révélation divine de la parole faite chair. Si elle était chère à cette époque-là par le fils, l'époux, elle est chère aujourd'hui par l'épouse. Voyez, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Bon, l'Église catholique a repris ça pour l'appliquer à leurs prêtres, mais ça, c'est charnel. Regardez bien, c'était la parole révélée spirituellement qui avait cet effet. C'est pour ça qu'il leur a dit d'aller baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Il savait que savait qui il était. Je parlais à un jeune prédicateur l'autre jour. Il disait, « Bon, frère Branham, je suis allé me joindre. Je suis allé à telle église, une église pentecôtiste. Et les pentecôtistes, maintenant, ils ont commencé à prendre l'hostie ronde. Vous savez, vous en avez entendu parler, je pense. Le pain cachère, le Dieu lune, vous savez. Et ils ont tous accepté ça et ils le prennent. Cet homme disait, son assemblée était allée le voir. Il a dit, « Ce que je bénis est béni. » N'est-ce pas là précisément ce que le prêtre dit, qu'il a le pouvoir de transformer ça pour que ça devienne le corps de Christ? Voyez-vous, c'est blanc bonnet et bonnet blanc, c'est du pari au même. Et il a dit, « Je voudrais vous demander quelque chose. » Il cherchait à éviter le sujet du baptême au nom de Jésus, parce que c'est cet homme-là qui avait déclaré que celui qui ferait ça, c'était l'Antichrist. Il a dit, « Pensez-vous que ce soit vraiment nécessaire qu'un homme se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ ?» J'ai dit, « Oui, monsieur. » Il a dit, « Après qu'il a été baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit ?» J'ai dit, « Oui, monsieur, il n'a pas été baptisé du tout. » Voyez, il n'a pas été baptisé du tout. Pas un nom, c'est un titre. J'ai dit, « Ce n'est pas accepté. » J'ai dit, « Pourquoi est-ce que Pierre ?» Il a dit, « Eh bien, alors, je vais vous dire quelque chose. » Il a dit, là, dans Acte 10, 49, il a dit, « Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur eux. » Mais j'ai dit, tout de suite après, il a dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ces gens? Il a dit, eh bien, vous parliez là, à un moment donné, d'Actes 19, où Paul, ayant traversé les contrées supérieures, avait trouvé Éphèse de ses disciples. Et il a dit, mais, il a dit, ceux-là n'avaient pas été baptisés au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. J'ai dit, non, ils avaient été baptisés pour être amenés à la repentance, pas pour le pardon des péchés, pour amener à la repentance, parce que Jésus n'avait pas encore été manifesté. Le sacrifice n'avait pas été mis à mort. Il a dit, eh bien, pourquoi a-t-il fallu que cela se fasse rebaptiser? J'ai dit, l'homme qui tenait les clés a dit ceci, car sachez qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel vous deviez être sauvés. Le salut s'opère uniquement par le nom de Jésus-Christ. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom de Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre nom, aucune église, aucune hiérarchie, aucun titre, ni rien d'autre. Pourtant, il est la rose de Saron, le lys de la vallée, l'étoile du matin, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, Jéhovah Jireh, Rapha, Manassé, tout ça. Il est toutes ces choses, mais pourtant il n'y a aucun salut dans aucun de ces titres. Jéhovah, aucun salut. Rose de Saron, pourtant c'est ce qu'il est, aucun salut. Père, Fils ou Saint-Esprit, aucun salut. Uniquement le nom de Jésus-Christ. Et puis, la Bible dit que la repentance et le pardon des péchés doivent être enseignés en son nom, à commencer par Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. Il a dit, « Pensez-vous que ça change quelque chose ?» J'ai dit, « Monsieur, je voudrais vous demander quelque chose. » Lui et moi et ma femme, nous étions à table. Il s'était joint à nous. J'ai dit, « Nous sommes tous deux de l'Arizona. Nous habitons ici. » Et nous connaissons notre conseil, notre circonscription, et tout, notre maire, notre gouverneur, et tout. Il a dit, oui. J'ai dit, maintenant si je vous disais, frère, d'aller signer notre addition au nom du gouverneur de l'État de l'Arizona, est-ce que vous iriez la signer comme ça? Pensez-vous que ce serait accepté à la caisse? Eh bien, il a dit, je ne pense pas. Il a dit, pourquoi est-ce que Jésus a dit ça? J'ai dit, c'est ça justement, voyez-vous? Pourquoi? Si je vous disais d'aller signer l'addition au nom du gouverneur de l'État de l'Arizona, comme nous sommes citoyens de l'Arizona et que nous savons qui est le gouverneur, voyons, vous sauriez qu'il faut la signer au nom de Sam Goddard, voyez-vous? J'ai dit, parce que c'est lui le gouverneur de l'État. Je n'ai pas de questions à vous poser. Vous savez qui est le gouverneur. Et quand il a dit « Père, Fils et Saint-Esprit », il savait comment ils allaient baptiser. Il savait qui il était. « Mes brebis entendent ma voix. » Voyez, voyez. Il a dit « Oh, je vois. Mais maintenant, la prochaine étape, allez-vous croire. » Voyez. « Celui qui entend ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et quand cette nouvelle vie éternelle habite en vous, elle est le potentiel. » Bon, une fois que vous avez reçu ce Saint-Esprit, qu'eux ont reçu la Pentecôte, ils étaient la mécanique. Maintenant, la dynamique devait venir. Ils avaient cru. Vous savez, nos bons amis les baptistes nous disent, quand nous croyons, nous l'avons. Mais eux, ils ne l'avaient pas encore. Pourtant, ils avaient cru. Dans Actes 19, ils avaient cru, mais ils ne l'avaient pas. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Voyez, ils avaient la mécanique, c'est vrai, parce que les apôtres, ou je veux dire Apollos, leur enseignaient et leur démontraient par la Bible, par la mécanique, que Jésus est le Christ. Mais ils n'avaient pas encore la dynamique. Voyez, c'est ça, bien. Canique, vous avez le gage potentiellement en attendant. Maintenant, quand vous avez reçu la dynamique, vous avez été vivifié de l'état de mortel à l'immortalité. Cela assujettit le corps entier à la parole. Cela va changer votre comportement, changer votre apparence, changer votre vie. Cela va vous changer, tout simplement. Maintenant, regardez, avez été vivifié. Vous qui autrefois étiez mort par votre péché et par vos offenses, et dans les ténèbres, il vous a vivifié. Par quoi? Son esprit qui a ressuscité Jésus le matin de Pâques d'entre les morts. Et s'il habite dans vos corps mortels, regardez bien là, il vivifie ceux-ci aussi, leur rend la vie, les assujettit à la parole. Maintenant, comment pouvez-vous prétendre avoir cet esprit et vous détourner de la parole? Vous êtes vivifié par quelque chose d'autre. car lui, il vivifiera vos corps mortels à la parole. Certainement qu'il le fera. Vous ne pouvez pas avancer sans lui. Vous ne ferez que bafouiller si vous ne la croyez pas toute. Si vous avez en partie de l'essence et en partie de l'eau, vous n'irez nulle part. Voyez ? Vous devez prendre de l'essence à 100%. Sinon, vous avez des ratés et vous n'avez aucune puissance. Voyez ? Mais je crois ceci, mais je ne crois pas cela. Pout, 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 vous n'allez nulle part. Mais, oh, quand vous prenez la plénitude, que l'allumage se fait là-dessus, chaque parole est la vérité. Alors, remarquez maintenant, en terminant, remarquez ceci. Remarquez, c'est tout comme une petite semence qui repose dans la terre. Maintenant, potentiellement, vous êtes ressuscité. Vous êtes ressuscité quand vous recevez le Saint-Esprit en vous. Déjà là, vous êtes ressuscité. Votre corps est potentiellement ressuscité. Regardez une petite semence, plantez-la dans la terre. Elle doit boire à sa source, les eaux qui descendent d'en haut. Et, en buvant, elle s'élève vers lui, devenant de plus en plus semblable à la semence qui est allée en terre. Voyez ? L'Église a suivi le même processus, par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Et maintenant, elle s'épanouit. Voyez ? L'Esprit de Dieu est venu par le même processus. Et l'Esprit du monde est venu par l'Antichrist. Il a suivi le même processus. Et maintenant, il s'épanouit dans une grande union des Églises. Voyez-vous ? Toute la chose. Et l'individu suit le même processus. Tout s'opère selon la même échelle de Dieu, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Remarquez, vous êtes en route, croissant jusqu'à la plénitude de la résurrection, conduit par l'Esprit, comme le soleil, S-U-N, attire cette petite plante qui boit à la source de Dieu, qui continue simplement à... Voyez-vous, elle peut seulement boire à une seule chose. Versez de l'huile sur cette petite semence une fois, ça la tuera, c'est vrai. Versez de l'eau stagnante, de la vieille eau qui n'est pas bonne du tout, qui est contaminée, ça va retarder sa croissance. Elle ne portera pas de fruits, pas vrai? Mais versez de la bonne eau de pluie, très douce, amen, pas de produits chimiques faits de main d'homme dedans. Qu'elle descende du haut des cieux tout simplement et observez cette petite plante. Il n'y a aucune eau qui la fera croître aussi bien que cette eau de pluie. Mettez-y du chlore et toutes ces choses, comme celles dont on essaye de nous bourrer. Et avant longtemps, ça tuera la plante. C'est ça qu'il y a aujourd'hui. Ils essayent de leur donner des eaux de la source dénominationnelle, et ça retarde leur croissance. Voyez, mais qu'on lui donne de là où la miséricorde étincelle. Brille autour de moi le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Là, vous y êtes à ce moment-là. Oui, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde étincelle. Brille simplement autour de moi. Débarrasse-moi de ces sources faites de main d'homme. Je ne connais point d'autre source, rien d'autre que le sang de Jésus. C'est la seule source que je veux connaître. Que la parole habite en moi, Seigneur. Arrose-la par ton esprit. Remarquez maintenant, si cet esprit qui a ressuscité Jésus de la tombe habite en vous, vous avez potentiellement la vie, conduit par l'Esprit, pour qu'il vous vivifie la parole, pour que vous la croyez. Cette petite chose-là, elle monte toujours plus haut, au fur et à mesure qu'elle croit. Remarquez, à la Pentecôte, leurs corps ont été vivifiés à une vie nouvelle. Regardez cette bande de petits peureux. Est-ce que je vous retiens trop longtemps? Regardez, je me suis dégelé là, c'est ça, je me sens bien, oh là là. Remarquez, ils étaient peureux. Remarquez, pourtant, ils avaient la mécanique. Voyez ? Mais ils étaient tous assis là-bas. Ils disaient, « Oh, j'ai peur d'eux. Oh, j'ai peur d'aller là-bas m'affirmer ouvertement. Parce que, oh, il y a tous ces évêques imposants et tout ça là-bas. Oh, j'ai peur d'y aller. Il y a ces prêtres et tout ça. J'ai peur de m'affirmer ouvertement là-dessus. J'ai peur de dire que j'ai cru en lui. Oh, je ne peux vraiment pas faire ça, tu vois ?» Mais tout à coup, la dynamique est venue. Oui, et qu'est-ce qu'elle a produit comme effet? Elle n'a pas seulement rempli leur esprit à l'intérieur d'eux, mais elle a vivifié leur mécanique. Leurs corps ont été vivifiés. Ce n'étaient plus des peureux. Sans hésiter, ils sont sortis affronter les gens. Oui, monsieur. Hommes juifs, et vous qui séjournez à Jérusalem? Alors que, avant que la dynamique vienne, tout ce qu'ils étaient, c'était la mécanique. Voyez ? hommes qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. Je suis l'un d'entre eux. Ceci, c'est cela. Je vais vous montrer ce que c'est. C'est l'Écriture. Ceci, c'est cela. Et j'ai toujours dit, si ceci n'est pas cela, laissez-moi garder ceci jusqu'à ce que cela vienne. Non, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Voyez-vous, la dynamique est entrée dans la mécanique. Ils n'avaient plus peur. Certains d'entre vous, là, qui avaient peur qu'une femme se moque de vous parce que vous avez les cheveux longs ou que vous ne portez plus de maquillage. Certains d'entre vous, les hommes, là, qui avez peur que votre organisation vous mette à la porte quand vous baptisez votre assemblée du baptême scripturaire. Vous avez besoin de vous enfermer dans la chambre haute jusqu'à ce que la dynamique vienne. C'est vrai. Elle les a changés. Elle les a vivifiés. Elle a fait d'eux des personnes différentes. Ils étaient des gens changés à partir de ce moment-là. Elle les a vivifiés d'une ancienne vie où ils étaient peureux pour devenir comme le lion de la tribu de Juda. Ils ont absolument affronté le martyr. Ils ont été cloués à des croix, crucifiés la tête en bas, brûlés, jetés dans la fosse aux lions. Il n'y avait plus rien de peureux en eux. La mort n'a eu aucune victoire sur eux, du tout. La dynamique était dans la mécanique. Oui, monsieur. Elle a vivifié leur corps mortel. Maintenant, écoutez, voici autre chose comme preuve. Elle les a tellement vivifiés au point que, vous savez quoi? Ils ont été élevés dans les lieux célestes et leurs corps mortels ont été tellement vivifiés que leur langage a été transformé. Elle a vivifié leur langage. C'est ce que la Bible dit. Leur corps mortel ayant été vivifié, leur langage a été vivifié. Leurs pensées ont été vivifiées. Leurs esprits ont été vivifiés. Leur vie a été vivifiée. Ils ont été vivifiés entièrement. Ils ont essayé de parler et ne pouvaient plus parler dans des langues humaines. Ils avaient été tellement vivifiés, élevés dans la présence de Dieu, qu'ils ont parlé une nouvelle langue, une langue céleste. Pfiou, quelle puissance vivifiante! Si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, oh, alléluia, il vivifiera votre corps mortel. Il vous fera faire des choses que vous ne faisiez pas auparavant. Ils étaient remplis de puissance vivifiante alors. Voyez, votre corps n'est plus assujetti au péché, vous, vos désirs. Il dit, viens donc par ici. Vous dites, tais-toi. Oh, nous avons la plus grande, tais-toi. Oh, vous êtes un aigle. Avez-vous déjà remarqué combien un vieil aigle est indépendant dans sa marche? Il ne sautille pas comme un vautour, voyez-vous, vers tout ce qui est mort et toutes les charognes qu'il y a par terre. Non, monsieur, il marche fièrement. Tais-toi. Oh, voici un bon repas par ici, pas pour moi. Vois-tu, mes désirs ont changé. Je n'ai plus les mêmes goûts. Car l'homme ne vivra pas de la charogne du monde seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Un authentique aigle vivifié vit de cela. Amen. Et il a ressuscité Christ de la tombe. Il habite en vous. Ce qui a vivifié votre corps mortel à sa présence, vous la reconnaissez. Vous n'êtes plus un charognard. Vous êtes un aigle. Vous ne voulez pas des choses du monde. Vous êtes un fils et une fille de Dieu. Vous festoyez à une source dont le monde ne sait rien. Vous y buvez. Quelqu'un en sait, le monde n'en sait rien. Vous mangez de la manne cachée, dont le monde, lui, ne sait absolument rien. En effet, vous êtes un aigle. Vous avez été vivifié, élevé dans les hauteurs, où vous pouvez l'atteindre. Vous ne pouvez pas l'atteindre ici, en bas. Vous devez monter jusqu'ici. Vous devez être vivifié, être élevé jusque-là, pour qu'ils puissent vivifier. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont parlé dans une autre langue. La Bible dit. Ils ont parlé dans toutes les langues qui existent sous le ciel. Pouvez-vous imaginer ça, ces vieux corps mortels qui étaient là-bas, qui disaient, « Eh bien, je ne sais vraiment pas, là, si je peux croire ça ou pas. » Tout à coup, ils ont été tellement vivifiés que la bravoure du lion de la tribu de Juda est descendue en eux, sur cette gerbe agitée. Oh, cet aigle est venu appeler les siens, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Et il y en aura d'autres qui donneront le sang de leur vie pour cet évangile du Saint-Esprit et son flot cramoisi. et le Fils doit être révélé de nouveau dans l'épouse au dernier jour. La puissance vivifiante doit venir, les vivifier pour les faire passer de ces dénominations mortes et ces credos à une parole vivante du Dieu vivant. Oh non, cela les a vivifiés à une vie nouvelle. Cela produit le même effet maintenant dans notre cas à nous. Remarquez, à ce moment-là, ils ont été tellement vivifiés par cette puissance vivifiante. Maintenant, écoutez bien maintenant, j'essaie de vous montrer. La puissance vivifiante n'était pas seulement dans leur âme, mais elle était partout sur eux. Elle, non seulement la dynamique est entrée à l'intérieur pour vivifier, mais elle a aussi vivifié la mécanique. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont été tellement vivifiés que leurs lèvres se sont mises à parler dans une autre langue. Ils étaient tellement vivifiés par la puissance de la résurrection de Christ qu'ils imposaient les mains. Ils étaient tellement vivifiés par la puissance vivifiante au point que, quand ils imposaient les mains aux malades, ceux-ci étaient guéris. Il a vivifié votre corps mortel. Ils étaient guéris par l'imposition de leurs mains. Et l'Esprit a vivifié leur communion ensemble avec Dieu, si bien qu'ils étaient tellement vivifiés aussi dans la présence de Dieu, que quand une personne était morte et que son âme était déjà partie, l'Esprit l'a ramenée à la vie. Amen. Gloire. Maintenant, je me sens religieux. C'est vrai. Vivifié. Sa résurrection, ce n'était pas seulement pour lui, mais pour quiconque le veut, pour cette semence prédestinée qui repose là. Vivifie. Il vivifie le corps mortel. Ils imposaient les mains aux malades, ceux-ci étaient guéris. Ils priaient. Dans l'esprit, ils voyaient des visions. Ils parlaient et les morts revenaient à la vie. C'est exact. Il a vivifié leur corps mortel. S'il entre en vous, si effectivement c'est le cas, bon, vous pouvez dire que c'est le cas, mais si effectivement c'est le cas, ces signes suivront, vous voyez. Il vivifie votre corps mortel. Il vous vivifiera. Maintenant, remarquez, vivifié dans la présence de Dieu. Pourquoi? C'était l'Esprit de Dieu qui avait ressuscité Jésus de la tombe. Et l'Esprit de Dieu, je leur donne la vie éternelle. Ce qui vient du mot grec, si vous voulez le chercher, c'est Zoé. Il l'a fait agir en vous. Et puis, il vivifie même leurs pensées. Maintenant, regardez, comment pouvez-vous dire que cet Esprit habite en vous? Vous aurez beau avoir fait tout ce que vous pensiez être juste. Voici la preuve. Ce qui vous fait savoir si oui ou non vous l'avez. Si l'Esprit qui était en Christ est en vous, il vous vivifie aussi à la parole. Car Christ est la parole. Et si, au contraire, il vous vivifie pour vous éloigner de la parole, alors ce n'est pas l'Esprit de Christ. M'importe ce que vous avez pu faire, tant que cela ne vous aura pas dirigé dans la parole. Mes brebis entendent ma voix, elles vivront de toute parole, toute parole. Je parlais de ça l'autre jour. Ma propre mère, elle est décédée maintenant, et c'était une femme très étrange. Et elle était, vous savez, à peu près moitié indienne, et elle était étrange. Mais c'était une personne là qui ne rêvait pas. Mais je ne pense pas, elle n'a fait que 4 ou 5 rêves de toute sa vie. Mais chaque fois qu'elle a fait un rêve, il était vrai. Elle faisait un rêve, il était vrai. Je me rappelle une fois, quand j'ai commencé à prêcher, au début, il y a bien des années de ça, nous habitions juste ici, sur la route, juste un peu plus haut. Je prêchais ici même, à cette église. Elle a fait un rêve dans lequel je me tenais debout, ici, près de 3 marches. Et j'étais là, à prêcher à tout le monde qu'ils devaient monter ces 3 marches avant qu'ils arrivent sur le chemin. Et sur le chemin, il y avait un genre de petite ligne blanche nacrée qui allait directement jusqu'aux portes du ciel, jusqu'à la porte de perles. Cette perle avait été étirée jusqu'en haut des marches. N'est-ce pas précisément mon message aujourd'hui? La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Et je disais qu'une personne doit passer par ces 3 marches pour pouvoir marcher sur ce chemin. Et je disais que une dame est venue. Maintenant, vous savez quel genre de souliers les gens portaient il y a 35 ans. Une dame est venue, elle portait une énorme paire de souliers, semblables à ceux qu'elle porte aujourd'hui, à talons aiguilles. Et elle est passée, et j'ai dit, « Un instant, sœur, vous ne pouvez pas marcher sur ce chemin avec ça. » Et j'ai dit, « Vous ne pouvez pas faire ça. » Et elle a dit, ah, elle a dit, elle s'est tournée vers les autres femmes, elle leur a dit, ne le croyez pas, c'est un fou. Voyez, ne le croyez pas. Je vais vous montrer que je peux être justifié, sanctifié et rempli du Saint-Esprit et quand même marcher comme ça. Et elle, je l'ai simplement laissée aller. Je ne pouvais rien faire de plus. Je ne pouvais pas l'arrêter. Et elle s'est précipitée sur le chemin. Elle s'est retournée pour regarder la sœur. Elle a dit, tu vois, je te l'avais dit. Elle a commencé à courir sur le chemin. Et elle, vous savez, comme la Bible dit dans Ésaïe chapitre 5, qu'elles auraient le cou tendu. Forcément, elles sont renversées en arrière, voyez-vous. Elles vont à petits pas. Forcément, il faut qu'elles se tortillent. Elles vont à petits pas en faisant résonner leurs talons. Voyez-vous les filles de Sion au dernier jour. Et elle a commencé à monter ce chemin en courant à toute vitesse. Et au bout d'un moment, la route devenait de plus en plus étroite. Elle a commencé à vaciller en allant à petits pas comme ça. Et la voilà qui quitte le chemin. Et maman a dit, les cris les plus horribles que j'ai jamais entendus de ma vie, c'était ceux de cette femme, alors qu'elle tombait dans les flammes et dans la fumée, qu'elle descendait et descendait comme ça. Elle a dit que je me suis retourné et j'ai dit, voyez, elle avait obéi à tout sauf à une parole, voyez-vous, à tout sauf à une parole. C'est sûr, les femmes pentecôtistes peuvent être sauvées, sanctifiées et remplies du Saint-Esprit, et ensuite échouées. Absolument. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort. Voyez, voyez. Et elle a échoué là. Et, comme je le disais, voyez-vous, elle serait bien entrée, sans problème. Mais voyez-vous, elle n'a pas écouté. Je lui avais dit ce qui allait arriver. De même, il a écrit l'Évangile par les disciples, les apôtres, et la doctrine des apôtres et des prophètes, et ainsi de suite. Et il refuse d'écouter. Maintenant, remarquez, cette puissance vivifiante, Zoé, ce qui amène la parole, la pensée qui était en Christ, qu'elle soit en vous. Alors, j'essaie de vous montrer que vous, quand vous êtes ressuscité, quand Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, il vous a ressuscité vous aussi. Et vivifiés aussi, rendus à la vie avec lui. Vous êtes maintenant vivifiés, rendus à la vie, même si à ce moment-là, vous n'étiez qu'un attribut dans ses pensées. Mais Dieu avait vu tous ceux qui seraient en lui à la fin. Voyez-vous? Quand Dieu a baissé le regard vers le corps, l'esprit l'a quitté dans le jardin de Gethsémané. Il fallait qu'il meure comme un homme. Souvenez-vous, mes amis, il n'était pas obligé de faire ça. C'était Dieu. Dieu avait oint cette chair, qui était une chair humaine. Et il ne, s'il était allé là-bas en tant que Dieu, il ne serait jamais mort de cette mort-là. On ne peut pas tuer Dieu. Mais il n'était pas obligé de le faire. Mais souvenez-vous, il est allé là-bas avec vous en lui. Voyez-vous, Dieu n'avait pas encore séparé l'épouse de l'époux à ce moment-là. Donc, quand Dieu a baissé le regard vers le corps de Christ, il a vu les deux, l'homme et la femme. Tout a été racheté dans ce corps-là. Voyez, ils sont un, la même parole. La même parole qui parlait de l'époux parle de l'épouse. Eh bien, comment l'épouse peut-elle être là sans manifester tout ce qui avait été promis à son sujet? Et l'époux être là sans qu'il soit l'épouse? Mais puisqu'il a tout accompli, qu'il est même allé jusqu'à le prouver ensuite par sa propre résurrection d'entre les morts, alors l'épouse ne doit-elle pas accomplir la même chose, être exactement ce que la parole a dit qu'elle serait en ces derniers jours? Ne doit-elle pas revenir par Malachie 4? Ne doit-elle pas être manifestée, comme au jour de Sodome? Le monde ne doit-il pas être exactement tel qu'il est? Ces choses ne sont-elles pas une identification parfaite de la parole de Dieu qui nous a été divulguée? Eh bien, mes amis, je sais que je vous retiens longtemps. Il reste 15 minutes avant l'heure du repas de midi. Mais peut-être que j'aurai terminé d'ici là. Mais remarquez, regardez bien comme c'est parfait. Je ne sais pas quand je vous reverrai, voyez? Regardez, remarquez ceci. Mais Dieu avait vu d'avance l'épouse dans l'époux. Alléluia! Voyez-vous, pour sauver son épouse, comme Adam, il fallait qu'il l'accompagne. Adam savait ce qu'il faisait. Ève ne savait pas ce qu'elle faisait. Mais Adam est sorti pour être avec son épouse. Voyez? Et Jésus a pris la place de son épouse. Et il est devenu péché pour elle. Souvenez-vous, il est devenu vous. Il a subi votre châtiment à vous pour que vous puissiez prendre sa place à lui. Il a pris votre place pour que vous puissiez prendre sa place. Quel amour, quelle communion. Comment pouvons-nous renier cela? Comment pouvons-nous faire autre chose que l'aimer, mon ami? Je pourrais m'attarder là-dessus pendant des heures, mais avançons encore un peu. C'est semblable, l'expérience pentecôtiste aujourd'hui et la venue du Saint-Esprit, comme promis en ces derniers jours, c'est semblable au titre incontestable d'une propriété. Voyez ? Bon, vous pouvez avoir un titre, bien sûr, voyez, vous pouvez avoir un titre pour une propriété, mais encore là, ce n'est pas ça qui va déclarer qu'elle vous appartient. Non, monsieur, quelqu'un de bien loin en arrière pourrait venir et revendiquer cette propriété. Mais quand vous avez un titre incontestable, il démontre que tout ce qui aurait pu porter préjudice a été effacé, jusqu'au tout début, dès la fondation. Pas vrai ? Et quand un homme a dit qu'il croit la parole, ensuite, quand le Saint-Esprit vient, c'est le titre de propriété incontestable. Et cela vous donne l'autorisation, quand vous avez ce titre incontestable, alors chaque parcelle de cela vous appartient. Et tout ce qui s'y trouve vous appartient. Amen. Et c'est ce qui nous donne le titre incontestable. Quand le Saint-Esprit vient sur ce titre de propriété, ce que Dieu avait vu tout là-bas, avant la fondation du monde, et dont il avait inscrit le nom dans le livre de vie. Mais nous étions nés d'un homme et d'une femme, et assujettis au péché, et coupables de péché. Mais quand j'y ai cru, j'ai reçu le titre de propriété. Mais quand le Saint-Esprit est venu, c'était le titre incontestable. Comme quoi, tout ce qui me portait préjudice, que ce soit ma mère qui l'ait fait, mon père qui l'ait fait, ma grand-mère qui l'ait fait, c'est comme le petit enfant épileptique pour lequel j'ai prié il y a quelques instants. Ça lui avait été transmis par les grands-parents. L'épilepsie avait été transmise, et à cet enfant, c'est ce que j'ai dit. Mais quand le titre incontestable est venu, il a effacé, il a fait abstraction de tout. Je suis alors possesseur du titre incontestable. Amen. Et aussi sûr que l'Esprit a ressuscité Christ d'entre les morts, j'ai un titre de propriété incontestable, comme quoi je suis une partie de ce corps-là. Par le titre incontestable, le Saint-Esprit qui fait accomplir à ce corps de parole exactement la même chose que ce qu'elle avait accompli en lui, comme il l'avait promis pour le dernier jour. Le titre incontestable, tous mes péchés ont été effacés, tous vos péchés ont été effacés par le sang de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit est venu comme titre incontestable de la propriété que Dieu m'a donnée, par sa grâce, par sa préscience. Oh là là, de quoi avez-vous peur? Ce n'est pas étonnant qu'il ait dit, ne crains point, je suis celui qui était mort, et je suis de nouveau vivant, et je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ne vous faites aucun souci, même la mort ne vous fera pas de mal. Remarquez, magnifique, allons-y rapidement là. Le titre incontestable, la dette a été payée, tout ce qui portait préjudice a été effacé. Ha ha ha, gloire! Je fais peut-être l'imbécile, mais je me sens bien. Remarquez, voyez. Oh, un titre de propriété incontestable. Vous rendez-vous compte de ce que ça veut dire? Te rends-tu compte de ce que ça veut dire, frère? Il n'y a rien qui puisse te l'enlever. Amen. Je suis possesseur. Amen. Quel titre de propriété? J'ai maintenant tiré profit comme bénéficiaire de sa mort, de son ensevelissement et de sa résurrection. Il est devenu moi pour que je puisse devenir lui. Donc, il est devenu un pécheur pour que je puisse devenir un fils. Amen. Et être en possession du titre de propriété incontestable. En effet, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Voyez-vous, le titre de propriété incontestable. Maintenant, rapidement, avant, il nous reste encore une dizaine de minutes. Maintenant, remarquons rapidement la vivification de l'esprit. Je vais vous montrer quelques-uns des signes pour que vous compreniez. Regardez, maintenant observez l'effet de cette puissance vivifiante, ce qui était mon sujet. Après que le Fils est ressuscité, regardez l'effet qu'elle a eu sur eux, à la Pentecôte, l'effet qu'elle a produit sur eux, l'effet qu'a produit sur eux cette puissance vivifiante. Elle les a vivifiés. Maintenant, observons l'effet qu'elle a eu sur Étienne. Étienne était rempli de puissance vivifiante, n'est-ce pas vrai? Voyez, il était rempli de puissance vivifiante. Lui, ça ne lui a pas fait peur. Il a dit, « Hommes aux cou raides, incirconcis de cœur et d'oreilles, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes qui annonçait la venue du juste, vos pères n'ont-ils pas lapidé ?» Oh là là, elle a produit un effet sur lui, certainement. Il était rempli de puissance vivifiante. Et ils ont dit, nous allons nous débarrasser de ce gars-là. Et quand il est mort, ils l'ont lapidé. Et sa pauvre petite tête, c'est Pierre qui la martelait comme ça. Il a levé les yeux et il a dit, je vois les cieux ouverts. La puissance vivifiante agissait. Je vois les cieux ouverts et Jésus debout à la droite de Dieu. Voilà l'effet qu'a produit la puissance vivifiante dans le cas d'Étienne. Remarquez, quelqu'un d'autre avait cette puissance vivifiante. Il s'appelait Philippe. Il était tellement rempli de puissance vivifiante, il faisait une grande réunion là-bas dans la ville de Samarie. Les démons étaient chassés, les gens se faisaient baptiser au nom de Jésus-Christ. Ils avaient une réunion, une vraie de vraie. Et l'Esprit lui a parlé. Oh, là, la dynamique est descendue. Et il lui a dit, laisse ce réveil. Mais qu'est-ce que les ministres vont dire? Ce qu'ils disent, ça ne change rien à l'affaire. Voyez, il était rempli de puissance vivifiante. Il avait l'essence et la dynamique descendait sur lui. Il a dit, va-t'en dans le désert. Il y a trouvé un eunuque et l'a baptisé au nom de Jésus-Christ. Un seul homme qui a rapporté le message en Éthiopie. Pas vrai? Et il a obéi à Dieu. En obéissance à Dieu, si vous n'avez jamais été baptisé au nom de Jésus-Christ, faites-le. Et alors, regardez bien la puissance vivifiante se saisir de vous. Voyez? Quand Étienne a fait cette grande chose, ou non pas Étienne, mais Philippe a fait cette grande chose, de laisser ce grand réveil et d'obéir au commandement de Dieu, quand il a eu exécuté en baptisant cet eunuque, en obéissance à Dieu, il a été tellement rempli de la puissance vivifiante qu'elle l'a enlevé. Il vivifiera votre corps mortel si cet esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il a vivifié Philippe à tel point qu'on ne l'a revu qu'à environ 150 000 de là, quelque part ailleurs, dans une autre contrée. Il a vivifié son corps mortel. Comment a-t-il fait ça? Il était tellement rempli de la puissance vivifiante. Oh, Église du Dieu vivant, nous ne pouvons pas rester ici à têter des petits morceaux de sucre. Comme on en a par ici aujourd'hui. Il faut que nous soyons remplis et élevés dans une atmosphère de prière par la puissance vivifiante jusqu'à être vivifiés par le Saint-Esprit. Il faut que nous soyons enlevés un jour dans cet enlèvement là-bas. Oui, monsieur. Amen. Oh là là. Pardonnez cette expression. Je pensais à une mère qui prépare ses petits sacs comme on faisait autrefois pour le bébé. Certains d'entre vous, les vieilles mamans, vous vous en souvenez. Le petit bébé se mettait à brailler. On prenait quelques grains de café et du sucre. On enveloppait ça dans un sac et on le laissait susoter ça, juste pour le calmer. Il n'y a aucune force à retirer de ça. Ça va le tuer, voyez? Cette espèce de caféine qu'il y a là-dedans et tout. Elles ajoutent un peu de sucre pour qu'il avale ça. C'est de la caféine qu'il absorbe là. Nous en avons assez de ce genre de choses. Revenez, vous êtes des aigles. Revenez à la parole de Dieu. Soyez costauds, rien ne peut vous blesser, car vous êtes libres de tous les scandales de l'homme. Tout ce qu'on peut dire contre vous, ça ne fait que produire plus d'amour. Amen. La puissance vivifiante, enlevée dans les lieux célestes. Un aigle qui a pris son vol au-dessus des poulets, très haut, là-bas, dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Oh, elle était sur Philippe, c'est ce qui l'a vivifié, l'a enlevé. Considérons un autre homme. Il y a eu un homme du nom d'Enoch. Or lui, il avait marché en se conformant à toute parole de Dieu pendant environ 500 ans. Il avait le témoignage que pas une seule fois je n'ai manqué d'observer sa parole. Il a été tellement rempli de la puissance vivifiante que la dynamique est descendue sur lui, sur cette mécanique, qu'il n'a même pas eu à mourir. Il est simplement monté à la maison. Il a simplement commencé à marcher. Il était tellement, comme Philippe, il a été tellement rempli de puissance vivifiante qu'au lieu de partir vers Gaza et d'aller ailleurs, dans les contrées supérieures là-bas où ils l'ont retrouvé. Plutôt que de faire comme ça, lui, il est simplement parti. Oh, il a dit, de toute façon, je suis un vieillard. J'ai tellement de puissance vivifiante, voilà, je vais simplement quitter la terre en marchant. C'est cette même puissance vivifiante que nous avons maintenant même. Voyez-vous, elle vivifiera votre corps mortel. N'est-ce pas vrai? Ce sont les puissances vivifiantes. Enoch, avec ce témoignage parfait, que tout ce que Dieu m'a dit de faire, je l'ai fait. Tout ce que j'ai vu qu'il m'a dit de faire, je l'ai fait. Et il a été tellement rempli de dynamique ou de mécanique que quand la puissance vivifiante est descendue sur lui, sur la mécanique, elle l'a tout simplement soulevé de terre. Il a continué à marcher, il a quitté la terre et est monté dans le ciel. Maintenant remarquez, sur Élie, Après, regardez, Élie, ce grand prophète, ce grand homme de son époque. Excusez-moi, frère, sœur, à cette époque-là, il avait cogné dur sur ces femmes au visage peint. C'est Jézabel et c'est Akab. Et ils s'étaient tenus là jusqu'à ce que... Et personne, semble-t-il, ne s'est tenu là avec lui. Et il avait réprimandé et attaqué férocement. Et il s'était tenu là. Et Dieu avait pris soin de lui. Et lui était venu en aide partout. Vous savez, le brave vieillard, un jour, il était fatigué. Il a dit, « Je me fais vieux. Alors, vraiment, je ne peux pas aller plus loin. » Il avait tout près de 90 ans, je pense. Vraiment âgé. Il se promenait par là. Et il était tellement rempli de puissance vivifiante. Savez-vous quoi? Il a regardé de l'autre côté du Jourdain. Oh Dieu, je peux presque voir de l'autre côté. Pas vous? Tellement rempli de la puissance vivifiante qu'il a vu un char attaché de l'autre côté. Des chevaux de feu et un char de feu attaché à un arbre là-bas. Il a simplement traversé le fleuve à pied et il est rentré à la maison sans même mourir. La puissance vivifiante a envoyé, a fait descendre du ciel un char et il l'a emporté. Il a même ôté son manteau et l'a laissé tomber pour Élie. C'est exact. Alors, là, cet homme a pris ce manteau. Encore un type de l'Église. Voyez-vous, il a pris ce manteau. Or, il a fait deux fois plus de miracles, ce qui est un type de Christ et de l'Église. Voyez, Élie en avait fait 4, lui en a fait 8. Voyez, alors il avait deux fois plus de puissance, parce que c'est ce qu'il avait demandé. Vous ferez de plus grandes choses que celles que je fais. Voyez. Mais il était tellement rempli de la puissance vivifiante et tout, qu'il a fait toutes ces choses deux fois plus ce qu'Élisée a fait, plus que ce qu'il avait fait. Et remarquez, il a vécu les années de sa vie jusqu'à ce qu'il ait 80 ou 90 ans. Il a pris de l'âge et il est mort. Il est mort et ils l'ont emporté et l'ont enterré. Vous savez, eh bien, cette puissance vivifiante ne l'a pas quitté. Bien, bien des années plus tard, alors que la chair en décomposition s'était détachée de ses os, il reposait dans une tombe. Et ils transportaient un mort un jour. Et quand ils ont aperçu l'ennemi, ils ont simplement jeté cet homme sur les eaux d'Élysée. Il y avait tellement de puissance vivifiante sur ses eaux que l'homme a repris vie d'un coup. Oh, il vivifiera votre corps mortel. Bien que mort et en décomposition, dans la tombe, mais cette puissance vivifiante reposait sur cette poussière de la terre. Alléluia. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts vivifiera aussi votre corps mortel. L'Élie de cette époque-là, Élisée et Élie. Souvenez-vous, cet homme mort, ce prophète, rempli de cette puissance vivifiante, reposant dans la tombe, il s'était décomposé. Il y avait tellement de puissance vivifiante qu'ils ont jeté un mort sur lui et il a repris vie. Il pouvait encore imposer les mains aux malades, n'est-ce pas? Amen. Voilà. Et souvenez-vous, nous sommes chairs de sa chair, Jésus-Christ. Nous sommes chairs de sa chair et os de ses os. Oh, c'est immanquable. Nous allons ressusciter. Un point et c'est tout. Vous allez ressusciter. Un point, c'est tout. Pâques, c'est plus qu'une simple tradition. C'est aussi maintenant même. Car nos corps sont vivifiés avec lui et nous sommes assis dans les lieux célestes. Et ce corps pourrait se décomposer dans la mer. Il pourrait se décomposer dans la terre. Il pourrait ne plus rester une cuillerée de cendre. Mais il va émerger. Car l'Esprit qui a ressuscité mon Seigneur d'entre les morts a vivifié ce corps mortel. Il a vivifié votre corps mortel. Et nous sommes ses bénéficiaires de sa résurrection, sa police d'assurance de la vie éternelle, dont je parle tant, vous savez. Ce n'est pas étonnant qu'il ait dit « ne crains point ». Il était au courant. En effet, comme Paul l'a dit, « mort, où est ton aiguillon? Tombe, où est ta victoire? Je suis rempli de puissance vivifiante. » Grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, monsieur, la puissance vivifiante, oh là là, il est vivant au siècle des siècles, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, 8. Remarquez, le Messie, celui qui est oint, c'est pareil pour son épouse, les messillettes, voyez-vous, celle qui est ointe. Remarquez, la mort n'arrête pas la puissance vivifiante de Dieu. La mort ne peut pas l'arrêter. Quand vous l'avez, elle est éternelle. Rien ne va l'arrêter. Vous ne pouvez pas y mettre le harnais. Vous ne pouvez pas l'altérer du tout. Que vous viviez toute la durée de vie qui vous avait été assignée, ce n'est pas ça qui va l'arrêter non plus. Elle est toujours aussi efficace. Remarquez, Moïse est rempli de cette puissance vivifiante. N'est-ce pas qu'il l'était? Il était un prophète à qui la parole est venue. Il était une partie de la parole. Il était la parole de ce jour-là, pas vrai? Et 800 ans après sa mort, il s'est tenu là, sur la montagne de la transfiguration, avec Élie. La puissance vivifiante, la mort ne l'élimine jamais. Non, non, je le ressusciterai de nouveau. Les anges étaient venus, l'avaient enterré là, dans une vallée. Il s'était décomposé, n'était plus, ses os n'étaient plus, ni rien. Mais la puissance vivifiante était toujours là. Elle l'a vivifié, elle l'a ressuscité. Et voilà qu'il se tenait là-bas. Regardez, vous dites, c'est vrai ça, frère Branham? 800 ans plus tard? Oh là là! Si vous voulez le lire, dans Matthieu, j'ai un passage de l'Écriture. Matthieu 27, 51. Vous pouvez le noter, le prendre en note. Alors que tous ceux des époques passées qui avaient cru qu'il allait venir, la Bible dit ici, après qu'il est venu, eux, ils dormaient dans la terre. La puissance vivifiante était sur eux. Et ils étaient une partie de lui, ces saints-là. Ils étaient une partie de lui, parce qu'ils avaient cru en lui. Ils avaient cette vie-là, potentiellement, par le sacrifice d'une brebis, d'une victime propitiatoire, alors que l'esprit d'une brebis ne pourrait jamais revenir sur un homme. Qu'en est-il de maintenant, avec l'esprit de l'homme, de Dieu lui-même, sur vous? Voyez-vous, combien plus de cette puissance vivifiante avons-nous? Mais, comme victime propitiatoire pour le péché, on offrait un agneau, un type. Ce que nous avons, ce n'est pas le type, c'est l'antitype. De quoi avons-nous peur? Et ces gens-là, qui n'en avaient qu'un type, lequel annonçait sa résurrection, et qui sont descendus dans la tombe avec ça, comme Job à son époque, alors que ses nerfs avaient été mis à rude épreuve. Oh, tout lui avait été ôté. Le diable avait dit, « Livre-le-moi, je l'amènerai à te maudire en face. » Et là, il s'est déchaîné. Il avait dit, « Je te défends de lui ôter la vie. » Et il a fait, il a tout fait, sauf lui ôter la vie. Jusqu'à sa femme qui s'est retournée contre lui. Il disait que son haleine lui était devenue étrangère. Autrement dit, elle ne voulait rien avoir à faire avec lui. Il semblait qu'elle ne l'aimait plus. Elle ne faisait que le repousser. « Job, tu es misérable. Pourquoi ne pas maudire Dieu et mourir ?» Il a dit, « Tu parles comme une femme insensée. » Oh là là. Voyez-vous, il s'est accroché à ce qu'il avait. Or, c'était un prophète. Il a dit, « Je ne suis pas un pécheur. J'ai offert le sacrifice qui a été pourvu. » Amen. Il savait à quoi s'en tenir. Il s'en tenait à la parole. Peu importe ce que les autres disaient, lui, il s'en tenait strictement à la parole. Ensuite, cette heure extraordinaire, il a dit, « Tu parles comme une femme insensée. » Il a dit, « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Eh bien, que le nom de l'Éternel soit béni. » Il a dit, « Je suis venu au monde sans rien à moi. Je suis venu ici nu, et je repartirai de la même façon. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Il était assis là, couvert d'ulcères, ses enfants morts. Il était sans le sou, et ses amis s'étaient tous retournés contre lui, les membres de son église et tout. Et il se grattait avec un « quel misérable loc ». Jusqu'ici, aucun de vous n'a jamais eu à subir tout ça. Il est quand même resté accroché à cette parole. Il était un aigle. Oh là là, on ne peut pas tenir le voile sur ses yeux tout le temps. Non, non. Tout à coup, pendant qu'il se tenait à cette parole, qu'est-ce qui s'est passé? Les cieux se sont ouverts, le tonnerre s'est mis à gronder, l'éclair s'est mis à briller. Job a levé les yeux et il a vu la vision. Il a dit, « Je sais que mon Rédempteur est vivant. Au dernier jour, il se tiendra sur cette terre. Et même après que les vers de ma peau auront détruit ce corps, les os et tout, cette puissance vivifiante sera là. Moi-même, je verrai Dieu, que je verrai pour moi-même. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. » Pas vrai? Même après que mes reins se seront consumés dans mon sein, même après que les vers de ma peau, qui sont dans mon corps maintenant, m'auront détruit. Vous savez, les vers de votre peau, ça ne vient pas d'ailleurs. Ce ver, il est déjà en vous. Ce sont les vers de votre peau à vous. Avez-vous déjà remarqué ça? Qu'on vous mette dans un cercueil et qu'il soit hermétique, la vermine va vous manger quand même, parce qu'elle est en vous. En dedans, vous n'êtes qu'un tas de vermine, dès le départ. Quand les vers de ma peau, les vers de ma peau à moi me détruiraient ma chair, de ma chair, je verrai Dieu. Et en ce matin de la résurrection, gloire, alléluia! Matthieu, ce grand écrivain, 27-51, a dit, après qu'il ait ressuscité des morts, les saints de l'Ancien Testament, plusieurs de ceux qui dormaient dans la poussière de la terre, sont sortis des tombeaux Elles sont entrées dans la ville, elles sont apparues à un grand nombre de personnes. Cette puissance vivifiante qui était encore sur les os d'Élie quand il n'y avait plus d'eau, qui était encore sur Job quand il ne restait plus une cuillerée de poussière de son corps. Mais la puissance vivifiante était toujours là. Si cet esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il vivifiera aussi votre corps mortel. Remarquez rapidement maintenant, vous dites, « Oh, comme j'aurais aimé vivre en... » Vous vivez en un temps meilleur. Maintenant, si vous tous... Je vois que vous notez des passages de l'Écriture. Très bien, notez 1 Thessaloniciens 4:16. Remarquez, comme c'est beau, voyez, dans les saints, ceux qui se sont endormis en Christ, Dieu les ramènera avec lui. Voyez-vous, les saints dans la tombe qui se reposent, comme Élie, d'autres comme Élisée, voyez-vous, certains seront vivifiés, certains seront emportés, certains seront dans la tombe, ils partiront avec lui. La trompette de Dieu sonnera, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, à la rencontre du Seigneur dans les airs. La puissance vivifiante sur les vivants, la puissance vivifiante sur les morts. Cette même puissance vivifiante de Dieu, démontrée dans ces deux prophètes. Regardez, leurs noms sont presque pareils. Élisée, Élie. Vous voyez l'épouse et l'époux. L'un est Monsieur Jésus, l'autre est Madame Jésus. Vous voyez, presque pareil. Il n'y a que ce qui distingue le « lui » du « elle ». Voyez, Élie. Et regardez comment c'est représenté ici. Maintenant, Élisée. Il a été pris dans l'enlèvement, ce qui représente l'Église. Très bien. Élie. Et Élisée s'est reposé jusqu'à la résurrection. Voyez, c'est tout comme un oiseau. Il lui faut deux ailes pour tenir en équilibre. Voyez, l'Église a été représentée précisément dans ces deux prophètes. Car nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Car la trompette de Dieu sonnera. Les deux ailes se réuniront et nous nous envolerons. Alléluia, nous nous envolerons. Parce que, quoi? Dans les vivants, comme dans les morts, cette puissance vivifiante est toujours vivante. Remarquez, souvenez-vous maintenant, vivifiez pour voir ce qu'il en est de ces choses. Observez la puissance vivifiante en ce jour-ci. Souvenez-vous, nous sommes vivifiés. Il n'y a pas longtemps pour vous aider. C'est, je pense, ce que notre Seigneur a dit. Et Paul aussi, ce que le Père m'a montré, je ne vous en ai rien caché, je vous le dis. Et, en ces derniers jours, alors que nous voyons cette puissance vivifiante sur nous, il nous a même donné la puissance vivifiante pour voir les malades être guéris. Nous avons vu la puissance vivifiante en action parmi nous, comme elle l'était sur eux, dans les premiers jours. Voyez, nous la voyons ramener par vision et ressusciter les morts. La voyons guérir les malades. L'autre jour, je disais à quelqu'un, le petit Donovan Wirtz, ici je pense, que vous le connaissez tous, j'étais à la chasse avec lui. Le pauvre petit, c'est un jeune homme bien gentil. Il vient à l'église ici. Il est vraiment un très bon ami à moi. Et il disait, je ne voulais pas vous déranger. J'ai regardé et son oreille était toute boursouflée. Et j'ai dit, ça va Donovan? Je l'ai simplement pris par la main, comme ça, et un cancer. J'ai dit, Donovan, qu'est-ce que tu as à l'oreille? Il a dit, je ne sais pas, frère Branham, ça doit faire 6-7 mois, et c'est de plus en plus... J'ai dit, pourquoi n'en as-tu pas parlé? Il a dit, je ne voulais pas vous déranger, frère Branham. J'ai dit, sais-tu ce que c'est? Il a dit, je m'en doute. J'ai simplement mis ma main sur lui. Je n'ai pas dit un seul mot. Deux jours plus tard, il n'y avait même pas une marque. Qu'est-ce que c'est? La puissance vivifiante, voyez-vous? Elle vivifiera votre corps mortel. Son oreille aurait été ravagée. Son cerveau aurait été détruit. Voyez-vous, il serait mort. Mais la puissance vivifiante, voyez? Et un jour que j'étais moi-même abattu à cause, je disais, si tu, mon gars, tu ferais mieux de te mettre en branle. Tu as 50 ans. Si tu veux faire quelque chose pour le Seigneur, tu ferais mieux de te dépêcher à le faire. Tu prends de l'âge, voyez? Et là, ce matin-là, la puissance vivifiante est venue et il m'a laissé regarder de l'autre côté du rideau. Et je vous ai tous vus là-bas. Oui, voyez? Il a dit, tous ceux que tu as aimés et tous ceux qui t'ont aimé, ils te sont donnés. Voyez? Je les ai tous vus là-bas, comme ça. Qu'est-ce que c'était? La puissance vivifiante. Jean, le révélateur, a été rempli, plein de puissance vivifiante. Il s'est levé et a vu jusqu'à la fin, depuis le commencement. Ésaïe a été rempli de la puissance vivifiante. Elle s'est levée et a vu le millénium et tout. La puissance vivifiante. Et si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, il vivifiera votre corps mortel. Souvenez-vous, la puissance vivifiante. Regardez ce que nous avons vu en ce jour. La puissance vivifiante nous est venue pour ouvrir les sept sceaux. C'était quoi ça? L'intelligence d'un homme? Non, la puissance vivifiante de Dieu. Voyez, la puissance vivifiante de Dieu avait prédit que cela arriverait. Voyez, la puissance vivifiante de Dieu a forcé le monde à en attester la vérité. L'ange du Seigneur, dont je vous ai dit qu'il était là, dans une colonne de feu, la puissance vivifiante a permis que le monde en atteste la vérité. Et ça, il ne savait pas ce que c'était. Nous le savions. Nous n'avons qu'à regarder de ce côté-ci, et c'est notre Seigneur, là-haut, vous voyez. Il est celui qui a ouvert ses sceaux. Il est ses sceaux, car la parole entière de Dieu, c'est Christ. Et les sceaux qui ont été ouverts, c'est Christ. D'ouvrir les sceaux, qu'est-ce que c'est? Alors, de révéler Christ. Et les sept anges même, qui représentaient les sept églises au complet. Et nous ne pouvions même pas le voir. Eux, c'est eux qui ont pris la photo, pas nous. Et le voilà, il se tient là, le juge suprême, montrant qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Quelle identification! La puissance vivifiante a produit sur nous cet effet-là. La puissance vivifiante nous donne de voir sa venue. La puissance vivifiante nous a arrachés à la mort et nous a transportés dans la vie. La puissance vivifiante donne le discernement pour savoir quel est votre problème et quoi faire, ce que vous avez fait et ce que vous n'auriez pas dû faire et ce que vous auriez dû faire et ce que vous deviendrez. La puissance vivifiante, toutes ces choses. Notre Seigneur Jésus est tellement rempli de puissance vivifiante, il était tout cela mis ensemble. Il était tellement rempli de puissance vivifiante qu'il a dit ceci, « Détruisez ce corps, et je le relèverai en 3 jours. » Vous parlez de confiance dans la puissance vivifiante. « Détruisez ce corps, et je, ce temple, et je le relèverai en 3 jours. » Pourquoi? Pourquoi a-t-il dit ça? Il savait que cela avait été écrit à son sujet, voyez-vous, que cela avait été écrit à son sujet par la parole de Dieu, qui ne pouvait pas faillir. La parole disait, « Je ne permettrai pas que mon saint voie la corruption, et je n'abandonnerai pas son âme dans le séjour des morts. » Il savait que cette puissance vivifiante allait le ressusciter, que pas une seule cellule ne serait corrompue. Il a dit, « Détruisez ce temple, et je le ramènerai en 3 jours. » Pourquoi? C'était une prophétie, la parole de Dieu. Et une prophétie, si c'est une véritable parole de Dieu, ne peut pas faillir. Et cette même prophétie, cette parole de Dieu, qui a déclaré qu'il allait le ressusciter, elle déclare que nous sommes déjà ressuscités avec lui. Ce n'est pas étonnant qu'il ait dit « ne crains point ». Et il est écrit que l'Esprit qui est maintenant, qui était en lui, qui est maintenant en nous, vivifie aussi notre corps mortel. Ne crains point, mon ami, le S-O-N, le Fils s'est levé, le Fils s'est levé. Non, maintenant, regardez la transfiguration. Nous étions, chacun de nous, représentés là. Il y avait les saints vivants qui avaient été enlevés, il y avait Élie qui se tenait là, et Moïse se tenait là, les saints morts reprennent. Là encore, tous les deux avaient la puissance vivifiante. Que l'un soit mort et que l'autre ne soit pas mort, ils y sont tous. Remarquez, oh, regardez ce que nous voyons maintenant, en ces derniers jours, la chose même qu'il a promise, Jean 14, 12. Maintenant, regardez, ça, c'est certain. Les gens disent, vous prétendez avoir de la puissance? Non, non, non. Nous sommes simplement comme ceux qui étaient sur la montagne de la transfiguration. Voyez-vous, ça, c'est certain. Nous ne prétendons pas avoir de la puissance. Mais nous, comme eux, ils étaient sur la montagne de la transfiguration. Ils n'étaient pas là à dire, Moïse à dire, voyez qui je suis. Les disciples à dire, voyez qui je suis, voyez qui je suis. Vous savez ce qui est arrivé? Remarquez, ils ont vu Jésus glorifié. Voilà tout ce qu'ils voulaient voir représenté. Jésus glorifié. Et c'est pareil aujourd'hui. Nous ne cherchons pas à être quelqu'un de grand. Ce que les gens disent de nous, ça nous est égal. Notre nom à nous n'est rien, c'est son nom. Notre vie à nous n'est rien, c'est sa vie. C'est sa puissance, ce n'est pas notre puissance. Et il n'y a qu'une seule chose que nous aimons faire, c'est de le voir glorifié. Et comment cela peut-il se faire? Quand il est glorifié en nous, par sa résurrection qui est en nous, nous le voyons aujourd'hui de nouveau représenté comme il l'avait été. Avez-vous saisi ça? Voyez-vous, notre désir n'est pas d'être glorifié. Notre désir n'est pas d'avoir un grand nom. Notre désir n'est pas de promouvoir une église, ou d'en avoir plus à l'école du dimanche, ou de chercher à faire entrer, lier par les pieds et les poings, pousser dedans, donner un pique-nique, ou introduire des étoiles, des macarons, ou quelque chose du genre. Ce n'est pas ça notre désir. Notre désir est de le voir glorifié. Glorifié, quoi? Pas par orgueil personnel, mais en nous, dans nos vies, pour prouver qu'il est vivant et qu'il vit en nous. Si je peux m'enlever, moi, du chemin, pour qu'ainsi, quand William Branham ne viendra même pas à l'esprit, et que vous ne viendrez même pas à l'esprit, alors nous puissions voir Jésus glorifié parmi nous. Le voir, lui, c'est ça notre désir. C'est ça la puce, ce qui nous donne la puissance vivifiante. Et ce qui fait notre joie, c'est de savoir que nous sommes avec lui, à la fois sa chair et son os, en étant son épouse. Et de voir ces mêmes façons de faire confirmées, par lesquelles il prouve en nous qu'il est maintenant ressuscité des morts. Voyez, ce n'est pas étonnant qu'il ait dit « ne crains point », car maintenant, remarquez, nous sommes rachetés par lui, et maintenant ressuscités avec lui. Voilà la portée de Pâques pour les gens, ressuscités avec lui. Remarquez, maintenant nous avons son esprit en nous, le titre de propriété incontestable, payé intégralement. Non, vous ne dites pas, eh bien, j'espère y parvenir. Vous y êtes déjà parvenu. Non pas, je vais y parvenir, j'y suis déjà parvenu. Moi, je n'y suis jamais parvenu, c'est lui qui y est parvenu pour moi. Voyez? Pas moi, lui. Eh bien, frère Branham, ils disent, peu m'importe ce qu'ils disent là, il y est parvenu pour moi. C'est tout ce que je veux, tout ce qui compte pour moi. Je veux seulement le voir, lui, manifester. Comment allez-vous y arriver? En le faisant descendre? Non, il est en vous. Voyez-vous, il est en vous. Eh bien, alors, Seigneur, si je peux m'enlever, moi, du chemin, tu pourras te manifester. Moi, comment vas-tu y arriver? Parce que tu l'as destiné ainsi. Tous ceux que le Père m'a donnés viendront. Remarquez, gloire! Maintenant que nous avons rassemblé toutes ces preuves que nous avons ce matin, oh, je pense à ce chant, en ce matin de la résurrection, où les liens de la mort seront brisés. Nous ressusciterons. Alléluia, nous ressusciterons. Vous croyez ça? Nous ressusciterons. En lui, nous devenons une partie de lui. Le Pâques, le secret de Dieu, révélé, comme il l'avait été alors, de la vie après la mort. Nous sommes maintenant vivants, nous qui autrefois étions morts par notre péché et par nos offenses. Le véritable sceau de Pâques a brisé les liens de la mort qui m'entouraient, et je suis vivant. Le sceau de Pâques, au commencement, a brisé le scellement, ce scellement romain, le sceau de Pâques avec lequel il avait été scellé. Et les hommes, quand ils mouraient, c'était fini, mais il a brisé le sceau et il a révélé le secret. Et maintenant, Dieu, par son Saint-Esprit, a brisé ce sceau qui entourait nos vies. Et Christ est révélé, alors qu'il vit en nous, car maintenant, nous sommes vivifiés avec lui. Oh, des pages et des pages.
We shall rise, amen, on that resurrection morning when death's cords are broken. We shall rise, hallelujah.
Oh, n'êtes-vous pas heureux? Je suis si heureux. Il y a bien longtemps là-bas, dans un petit hangar à charbon, un matin, les sceaux ont été brisés et je suis ressuscité avec lui, une nouvelle créature, sa puissance vivifiante. Le Fils s'est levé. Il n'y a pas longtemps, on m'a raconté une petite histoire au sujet d'un pêcheur. Un homme était venu et il avait engagé un vieux pêcheur pour qu'il l'emmène à la pêche sur la côte ouest. Ils sont partis ce matin-là. Si certains d'entre vous sont déjà allés à la pêche au saumon, là-bas, eh bien, vous savez ce qui arrive. Il y a beaucoup de brume là-bas, par moment. Je vois mon jeune frère, Eddie Biscal, là-bas, un missionnaire qui travaille parmi les Indiens, là-bas. Et nous aussi, nous avons pêché sur ces côtes-là. Donc, ce pêcheur, c'était comme un petit jeune là-dedans, vous savez. Il est parti à la pêche, et ils se sont éloignés du rivage. Ils attendaient que le jour se lève, vous savez. Et ils n'entendaient plus la sirène de brume. Et ce pêcheur, il s'est affolé. Il a dit, « Dis donc, nous dérivons, nous prenons le large. Hey » Hé ! Il s'est affolé. Il a dit, « Assieds-toi, fiston, assieds-toi. » Le vieux pêcheur, tranquille, vous savez, il savait de quoi il parlait. Il a dit, « Attends seulement que le soleil se lève, alors nous pourrons voir où nous sommes. » Vous dites, « Est-ce que je dois être méthodiste, baptiste, pentecôtiste ?» Attendez seulement que le Fils se lève, nous verrons où nous sommes. Il est la parole. Attendez de voir la parole manifestée, briller sur la semence, la gerbe agitée, nous verrons où nous sommes. Désolé de vous avoir retenu si longtemps. Combien d'entre vous vont rester jusqu'à ce soir? Oh, vous n'avez qu'à revenir ce soir alors, voyez-vous, vers 7 heures? Avais-tu prévu quelqu'un d'autre? Courbons la tête. Y en a-t-il un ici, ou beaucoup, qui n'ont pas cette puissance vivifiante en eux? Le Fils a brillé sur ce lieu, et vous vous êtes assis dans ce tabernacle, vous avez écouté les bondes, et pourtant, l'Esprit ne vous a jamais vivifié, pour que vous puissiez vous conformer à la parole de Dieu. Que vous, les femmes, et vous, les hommes, vous puissiez obéir à chaque parole qu'il a écrite. Oh, c'est dangereux, ça. Et si vous étiez une semence morte, sans aucune vie en vous, mais il y a quelque chose en vous qui vous dit, « Je veux ressusciter ce matin, je veux ressusciter de cet état dans lequel je suis. Je ne veux pas être seulement une semence morte, rester là, comme de la terre, une épave. Je veux ressusciter. » Voulez-vous lever la main pour dire, « Priez pour moi, frère. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oh, regardez-moi toutes ces mains. On ne pourrait vraiment pas faire un appel à l'autel. Ce que nous appelons un appel à l'autel, les gens qui s'avancent pour venir autour de l'autel, je n'y suis pas très favorable de toute façon. C'est juste quelque chose qui a été ajouté à l'Église à l'époque du réveil méthodiste. Voyez ? La Bible dit, « Tous ceux qui crurent, voyez-vous, furent baptisés. Il y a un baptistère ici rempli d'eau, il attend tout candidat qui est prêt à mourir à lui-même. Or, vous pourriez avoir été enseveli bien des fois au nom du Seigneur Jésus. Mais tant que cette semence n'est pas en vie, voyez-vous, il ne la vivifiera pas. Non, non, non. Le baptême des eaux, c'est comme la rosée qui tombait du ciel. Elle peut tomber sur la semence, mais il n'y a aucune vie là. Elle ne peut pas vivre. Mais si ce vrai baptême des eaux, de la mort à vous-même, et que vous êtes prêt à mourir à tout ce qui vous a jamais été enseigné par les credos et les dénominations, lesquelles sont contraires à la parole, et que vous allez marcher comme un fils ou une fille de Dieu, et que ça vient vraiment du fond de votre cœur, regardez bien l'effet que produira sur vous ce baptême d'eau ce matin. Repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos fautes, de votre péché, et vous recevrez la gerbe, l'offrande agitée. Vous recevrez la dynamique, le Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et pour tous ceux-là. Pour toutes les générations, elle subsistera. Dieu notre Père, j'ai parlé longuement et j'ai pris le temps de ces gens, beaucoup, mais Seigneur Dieu, il n'y a aucune fin à ça. C'est comme s'il faut tout simplement s'arrêter et s'en aller, se reposer et revenir. Nous vivons dans un monde qui se meurt, parmi des gens qui se meurent, avec un message de vie et avec une preuve de la résurrection. Dieu bien-aimé, nous ne serons mortels qu'une seule fois. Et qu'en sera-t-il si nous laissons passer cette occasion? Nos cœurs brûlent, nous avons de la joie dans l'âme de voir ces gens qui sont entrés. Et beaucoup ici entendent ce message ce matin. Oui, 200 ou 300 d'entre eux ont levé la main. Ils veulent croire, Seigneur. Oh, certainement que cette semence n'est pas morte, Seigneur. Comment pourraient-ils lever la main comme ça? Il y a quelque chose. Oh Dieu, c'est ce vieux moi, c'est cette femme de Job qui se tient là en disant, « Oh, mais Seigneur, ce Job, ce croyant qu'il entre ce matin, qu'il meure complètement et qu'il soit enseveli ici dans ce baptême des eaux, les gouttes de rosée qui viennent du ciel, la parole de Dieu qui dit que cela effacera tout péché et le pardonnera. Vous êtes baptisés au nom de Jésus-Christ. Pour quoi ? pour le pardon de votre péché, les péchés pardonnés au nom de Jésus-Christ. Puisse alors, Père, puisse, s'ils sont malades, puissent-ils repartir guéris. Puissent-ils, s'ils sont handicapés, puissent-ils repartir sous la puissance du Saint-Esprit. S'ils étaient pécheurs, puissent-ils repartir lavés et purifiés. Et la mécanique en y entrant, que la dynamique descende d'en haut, le Saint-Esprit, et qu'elle les enlève, Seigneur. Vivifie leur corps mortel, et alors nous entendrons d'authentiques nouvelles langues, des puissances de Dieu, un amour indescriptible, la grâce pour mourir et la grâce pour vivre, et un Christ ressuscité, un corps, une épouse qui le représente sur terre. Père, ils sont à toi. Ils ont levé la main. J'ai prêché la parole. Maintenant, Père, reçois-les, je prie. C'est au nom de Jésus-Christ que je le demande. Amen. Vous l'aimez? N'est-il pas merveilleux? Êtes-vous convaincu que vous êtes une partie de cette résurrection de Pâques, que vous êtes ressuscité avec lui? Levez la main. Vous êtes inclus, mes petits-enfants, comme Paul l'aurait dit. Je ne cherche pas à l'imiter, mais c'est l'amour, je vous aime. J'affronte les intempéries, sur la route et tout, pour venir jusqu'ici, pour pouvoir vous parler. Je sors du désert, je traverse des rafales de neige, et ainsi de suite pour venir jusqu'ici. Nous prenons l'avion, vous traversez le pays en voiture, pour que nous puissions être ensemble. Nous nous aimons les uns les autres, nous sommes une partie l'un de l'autre. Ne laissez surtout pas Satan vous dire autre chose. Comme nous sommes une partie l'un de l'autre, nous sommes une partie de lui. Et nous sommes concitoyens du royaume. Nous bénéficions ensemble de ces bénédictions de la résurrection. Et maintenant, voyez-vous, maintenant, vous êtes déjà ressuscité. Quand Dieu l'a ressuscité, il vous a ressuscité. C'est que le Fils vient de briller sur vous. Et maintenant, vous croissez pour devenir une vie épanouie, comme la sienne l'a été, pour être ressuscité entièrement en ce dernier jour. Votre potentiel, vous l'avez maintenant. Qu'est-ce qui vous le fait savoir? Votre âme est changée, n'est-ce pas? Votre corps s'y est soumis par obéissance, n'est-ce pas? Par obéissance, à quoi? Une église? À la parole, qui est la vie? Alors vous êtes maintenant ressuscité d'entre les morts. C'est Pâques pour Jésus et moi. C'est Pâques pour vous et Jésus. Et c'est Pâques pour vous, moi et Jésus. Nous sommes tous, ou Jésus, vous et moi, nous sommes tous ressuscités ensemble. Et nous ressusciterons au dernier jour, même si notre esprit quitte notre corps, même si les corps se rouillent, qu'ils retournent à la poussière, qu'ils soient entièrement brûlés, qu'ils soient au fond de la mer. La Bible dit, un ange versa la sienne sur la mer, et tous ceux qui y étaient morts se levèrent. Rien ne peut nous cacher, ni nous séparer de ce Dieu que nous aimons tant, qui nous a ressuscités ensemble. Que Dieu vous bénisse, je vous ai retenu ici longtemps. Si ces gens nous sont encore reliés par le téléphone, vraiment, ils, à 50 cents la minute, ça leur a vraiment coûté cher ce matin. Mais je ne pouvais vraiment pas m'arrêter au bout d'une heure. Il fallait que je continue. Maintenant, si le Seigneur le veut, je reviendrai ce soir pour vous parler encore. Et si je ne peux pas, et puis, vous savez tous, je pense que nous ne sommes pas au, ou pas, nous ne sommes plus reliés par le téléphone. Plus reliés par le téléphone. Vous savez tous où je m'en vais, n'est-ce pas? En Afrique. Je le demandais depuis longtemps. Il y a des années que je cherche à y retourner. Maintenant, une vision. L'Esprit du Seigneur a préparé la voie. Ils ont dit que, quand ces pauvres indigènes l'ont su, que je n'allais pas venir la dernière fois que j'y suis allé, ils sont restés étendus par terre, jour et nuit. Ils gémissaient et ils pleuraient. Et ils disaient, « Seigneur, qu'est-ce que nous avons fait ?» Des milliers d'entre eux. Ces gens ne croient même pas qu'ils ont une âme. Voyez ? Et ils pleuraient, et ils gémissaient, et ils pleuraient. Ne l'annoncez surtout pas d'avance, je vous en prie. Voyez-vous, si jamais on tombait sur ce visa, là-bas, et que ça se sache parmi ses ministres, ils m'arrêteraient tout de suite. Je dois entrer là-bas comme chasseur. Je vais chez la reine, qui avait amené avec elle 17 wagons remplis de gens, pour venir à la réunion. Je vais pouvoir aller chasser sur son territoire. Et j'entre, ma demande de passeport et tout, c'est pour y aller comme chasseur, pas pour des services religieux. Alors, un frère viendra me voir, il dira, « Pourquoi ne pas faire une petite réunion pour nous ?» Les stades sont déjà loués. Ils ne le savent même pas. Voyez, Oh, gloire! Priez que la volonté de Dieu ne soit pas entravée, afin que ce cri de mon âme de retourner en Afrique, depuis que je suis revenu de là-bas, que je puisse y retourner et revenir vous annoncer que nous avons eu une réunion glorieuse. Je ne vous reverrai probablement pas après aujourd'hui jusqu'à ce que je revienne de là-bas. Nous partons dans quelques jours seulement, le 10 mai. Allez-vous prier pour moi? Souvenez-vous, vous ne savez pas ce que c'est que des difficultés avant d'avoir atterri là-bas. Des sorciers guérisseurs de tous les côtés, et le diable, et n'allez pas penser qu'ils ne savent pas quoi faire. Voyez, vous avez intérêt à savoir de quoi vous parlez quand vous vous tenez devant eux. Mais je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Maintenant, des mouchoirs ont été posés ici. Dieu bien-aimé, ce message de ce matin, de la résurrection, où je me suis tenu ici, Seigneur, à prouver par la parole que cette puissance vivifiante se trouve dans ton enfant qui croit. Par conséquent, comme je crois, par la foi, que cette puissance vivifiante a changé ma vie, et ces gens croient, Seigneur, et elle a changé leur vie, aussi nous prions les uns pour les autres. Je pose mes mains sur ces mouchoirs, afin... Puisse Dieu, celui qui a ressuscité Jésus-Christ, et l'a ramené d'entre les morts, et cet esprit qui l'a ressuscité d'entre les morts, habité dans notre corps. L'esprit qui était sur le corps d'Élisée, là, après qu'il était mort, et qui ne restait plus que des os, la puissance vivifiante s'y trouvait. Les mains des apôtres avaient de la puissance vivifiante. La pensée des apôtres, la vue des apôtres, là, la langue des croyants, tout cela avait la puissance vivifiante. Maintenant, puisse cette puissance vivifiante, alors que je pose cette parole sur eux et mes mains pour représenter un possesseur, par la grâce de cette puissance vivifiante, puisse-t-elle vivifier chacun de ces corps malades et qu'ils soient complètement rétablis, ô Dieu, par le nom de Jésus-Christ. Que ce ne soit pas seulement pour ces mouchoirs, mais pour les gens qui sont dans l'auditoire, tous ceux qui souffrent, ces petits-enfants, les personnes âgées, qui que ce soit, puisse cette puissance vivifiante les vivifier maintenant même, au nom de Jésus. Amen. Maintenant, combien ont la puissance vivifiante? Maintenant, imposez-vous les mains les uns aux autres. Si cette puissance vivifiante est en vous, maintenant, il n'y a qu'une chose qui peut lui faire obstacle, c'est votre incrédulité. Une femme a touché son vêtement, elle a été guérie. Un soldat romain lui a craché au visage et il est allé en enfer. Voyez? Alors, ça dépend d'où vous en êtes. Le croyez-vous? Le croyez-vous? Maintenant, je veux que vous courbiez la tête et que vous priez les uns pour les autres. Priez simplement, simplement tout haut. Dites simplement, Seigneur, cette personne. Voyez-vous? Priez simplement les uns pour les autres. Dieu bien-aimé, nous faisons ceci au nom de Jésus-Christ, le seul nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous puissions être sauvés ou guéris. Ces gens qui sont concitoyens du royaume, possesseurs de la puissance vivifiante, vivifie-la pour eux, Seigneur, maintenant même. Et que l'Esprit passe d'aigle à aigle, de parole à parole, jusqu'à ce que la plénitude de Jésus-Christ soit manifestée dans chacun de ses corps, quels que soient leurs besoins, physiques, spirituels ou autres, alors que nous nous imposons les mains les uns aux autres, au nom de Jésus-Christ.